Vous êtes sur RTL.
Yves Calvi.
Merci, cher Dominique, et merci à toute l'équipe de nos petits matins. Bonne journée à vous tous qui nous retrouvez. Suite de notre matinale spéciale, RTL a décidé aujourd'hui, je vous le rappelle, de s'intéresser à ces centres-villes sinistrés dans nos régions. Ce sont les zones commerciales en périphérie, hein, qui ont généralement redistribué les cartes des villes, dont les commerces, l'animation et pour tout dire le cœur, ont parfois disparu. Rendez-vous dans l'ensemble de nos éditions et puis à 8h20, nous en débattrons. La France, et pour dire les choses simplement, l'État, ont-ils abandonné nos centres-villes? Je recevrai le député La République En Marche de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, et Michel Fournier, qui est lui président de l'Association des maires ruraux de France. C'est une vraie question car elle touche à l'âme de nos territoires et de notre pays. À 7h40, l'invité politique de Benjamin Sportouche. Et ce matin, la maire, les Républicains de Calais, faut-il craindre un retour de la jungle? La question sera posée par Benjamin Sportouche à Natacha Bouchard. Enfin, invité exceptionnel dans Laissez-vous tenter. À partir de 9h, Valérie Lemercier sera avec nous en direct pour la sortie de son formidable et très étonnant film Aline. Disons là aussi les choses très simplement, c'est un hommage exceptionnel et plein de charme à l'incroyable carrière de Céline Dion et à sa vie familiale. Nous sommes le jeudi 4 novembre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Et nous nous penchons donc ce matin sur la revitalisation des centres-villes.
Et il existe des solutions pour faire revenir les commerces. Nous irons à Arras, où depuis le début de l'année, 56 nouvelles échoppes ont ouvert. Jean-Luc Lahaye en garde à vue. Le chanteur est accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. L'au revoir, la Wiedersehen d'Angela Merkel à la France. Les émissions de gaz à effet de serre qui retrouvent leur niveau au plus haut. Et puis cette désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
La politique, William Galibert.
Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Les militants politiques.
Vous nous expliquez tout ça dès la fin du journal.
RTL Matin.
RTL s'intéresse ce matin à la situation de vos centres-villes, à vos commerces et à votre quotidien, notamment dans les communes où les échoppes se font de plus en plus rares. Exemple avec une ville qui n'est pourtant pas une petite ville, Arras, la préfecture du Pas-de-Calais. Elle aussi est pourtant touchée par le phénomène, mais la mairie a entrepris de très gros efforts pour faire revenir les commerces. Et ça fonctionne, Antoine Decarne.
À l'ombre du beffroi, sur les pavés irréguliers de la Grand Place, Leïla Cognesny a ouvert sa boutique de broderie d'art depuis 2 mois.
Ça faisait un petit moment que je cherchais un petit local. On m'a proposé, hein, mais en fait, je voulais vraiment que ça soit sur cette place.
Après 30 ans à Paris, elle a été attirée par Arras, sa ville plus tranquille, mais aussi son dispositif d'implantation de commerce. Une prime de 3 000 euros d'exonération des premiers mois de loyer.
Idéal pour moi, ça va me permettre de me soulager de tout ce qui a été investi dans ma boutique.
Et depuis janvier, 56 nouveaux commerces se sont installés, 30 autres sont même attendus avant la fin de l'année, pour la plupart des indépendants de centre-ville.
Ici, il y avait 6 cellules vacantes il y a 2 ans, et aujourd'hui, elles sont toutes reprises.
Lucie Wodecki, manager des commerces à la ville d'Arras.
En 2016, on était à 22% de taux de vacances, et aujourd'hui, on sera en dessous de 8.
Et pour cela, la mairie traque les locaux inoccupé du centre-ville, Maximilien Dumoulin, agent de la ville, convainc ensuite les propriétaires d'en faire des commerces.
À Arras, il y a vraiment un rouleau compresseur des aides. Sur les dossiers qu'on accompagne, on a des aides qui peuvent atteindre plus de 50% du montant des travaux. On va travailler sur les enseignes, on va travailler sur les réhabilitations des étages, des logements. Et en fait, tout ça mis bout à bout font que Arras devient une ville dynamique et attire de nouveaux commerçants, de nouveaux habitants, et on continue sur une lancée.
Une lancée qui a dopé l'attractivité de la ville, puisqu'en 5 ans, la population a augmenté de 5%.
Reportage d'Antoine Decarne à retrouver en images sur M6 dans le 12-45 et toute la matinée. Le sujet est au cœur d'une matinale spéciale sur votre radio.
Alors, l'État a-t-il abandonné nos centres-villes? Je poserai la question à nos deux invités à 8h20. Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, et Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France. Jean-Luc Lahaye a donc été placé en garde à vue hier.
Le chanteur est accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et de corruption de mineurs. Il a été interpellé hier matin, Alice Moreno.
Oui, le chanteur de 68 ans est soupçonné d'avoir violé 2 adolescentes de 16 et 17 ans à l'époque. Il leur aurait également demandé de prendre des poses sexuelles, des vêtus, des scènes qu'il aurait captées par internet, par caméra interposée. L'enquête est donc aussi ouverte pour abus de faiblesse, atteinte à l'intimité de la vie privée et détention d'images pédopornographiques. L'une des deux victimes était déjà dans le dossier de 2015 quand Jean-Luc Lahaye a été condamné pour corruption de mineurs. À ce stade, on ignore quelle est la version du chanteur. Son avocat a refusé refusait de répondre à nos questions. La fille de Jean-Luc Lahaye, Margot, est quant à elle soupçonnée d'avoir exercé des pressions sur les deux victimes. Elle est donc entendue pour subornation de témoins et complicité de viol sur mineur. Et puis deux autres femmes ont été interpellées hier matin, les mères des deux adolescentes soupçonnées d'avoir eu connaissance des relations de leur fille avec le chanteur. Elles sont en garde à vue pour complicité de viol, elles aussi, et non dénonciation de crime.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. Et puis en bref, quatre personnes ont été interpellées mardi soir après avoir roué de coups un policier en civil. L'agent, qui n'était pas en service, rentrait chez lui en train. Des jeunes l'ont reconnu et l'ont agressé. Trois d'entre eux ont reconnu être les auteurs de ces violences.
Après 16 ans à la chancellerie allemande, Angela Merkel fait ses adieux émus à la France.
16 années où elle a côtoyé Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Et c'est justement le président de la République qui l'a reçu à Beaune hier soir. Une cérémonie brise du génie, visiblement empreinte d'émotion.
Oui, après un récital de Brahms dont Angela Merkel ne manque rien derrière son masque noir. Bras en l'air, la chancelière se joint pudiquement aux invités pour entonner le banc bourguignon. Puis à l'étage, sous des boiseries centenaires, Emmanuel Macron honore Angela Merkel.
Merci infiniment, chère Angela, pour tout ce que tu as fait pour notre Europe. Je suis très honoré de te remettre donc aujourd'hui ces insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur.
Entre remerciements et félicitations, il fait même son autocritique.
Je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer. Tu as accepté cette énergie, peut-être parfois cette insolence, avec beaucoup de bienveillance et de sagesse. Donc merci de cette patience et de cette indulgence à mon égard.
Amusée et émue, Angela Merkel répond. Elle évoque Mitterrand, Chirac. À l'époque, j'étais jeune. Maintenant, je suis vieille, dit-elle. Dans un ultime remerciement à la France, la chancelière soigne sa sortie.
Du génie pour RTL. Les opérations de sauvetage continuent au large de Calais. Un migrant est mort hier, un autre est porté disparu et plus de 400 autres ont été secourus en mer mercredi après le naufrage de plusieurs embarcations de fortune dans la Manche. D'après les autorités, ce sont plus de 15 000 migrants qui ont tenté de rejoindre les côtes britanniques entre le 1er janvier et le 31 août.
Faut-il craindre un retour de la jungle ? Natacha Bouchard, la maire de Calais, sera justement l'invitée de Benjamin Sportouche à 7h40. Une petite pause et dans un instant, on évoquera la COP26 et à défaut de trouver des solutions, pour l'instant, la COP pollue. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal de Stéphane Genest et on va à Glasgow où se tient la COP26, vous le savez. Avec ce constat, les émissions de CO2 ont presque retrouvé leur niveau record d'avant Covid.
La crise du Covid n'aurait été qu'une parenthèse pour le climat et les émissions mondiales de CO2. En 2021, elles devraient rebondir pour se rapprocher dangereusement du record de 2019. Alors les participants à cette COP26 penchent pour trouver des solutions, mais paradoxalement, beaucoup sont venus à Glasgow pour cet événement précisément. En avion, et ça fait mauvais genre, Marie Billon.
La COP26 a plutôt bien décollé, mais les chefs d'État n'étaient pas obligés d'en faire autant, littéralement. La presse britannique a recensé 400 jets privés à Glasgow pour le début du sommet du prince Albert de Monaco au milliardaire Jeff Bezos. Ils ont été des dizaines à choisir de voler en solo plutôt qu'en prenant un vol commercial ou bien de voyager par des moyens plus écolos. Le prince Charles lui-même a fait ce choix pour aller de Rome, où il était pour le G20 en Écosse, mais pas avant de s'assurer que c'était bien du biocarburant qui était utilisé, précise le palais. Alors peut-être que l'avion princier a moins coûté que les autres à la planète, mais le journal Daily Mail a calculé que cette valse des jets de la Jet Set a émis 13 000 tonnes de dioxyde de carbone, l'équivalent de la consommation de 1600 Britanniques sur un an, ajoute le tabloïd. Mais celui pour qui ça chauffe le plus, c'est Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui a aussi choisi les airs pour rentrer à Downing Street plutôt que la ligne ferroviaire directe Glasgow-Londres. Quand il reviendra à la fin de la COP, les militants pourraient bien alors lever les yeux au ciel, soit dépité face aux résultats des négociations, ou peut-être pour guetter l'arrivée de Boris Johnson.
Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni.
Je rappelle ces deux chiffres, hein, 400 jets privés, 13 000 tonnes de carbone. On attendait un match de référence pour le Paris Saint-Germain, bah finalement on est vraiment resté sur notre
fin. Les hommes de Mauricio Pochettino ont fait match nul de partout face à Leipzig hier soir en Ligue des Champions, et finalement Nicolas Georgiou, rien ne change du côté parisien.
Oui, encore et toujours le PSG passe par tous les sentiments, Paris au bord du gouffre d'abord, mené au score avant de passer devant ensuite et de se faire attraper dans le temps additionnel, faute d'avoir su se mettre à l'abri. Il y a invariablement 2-3 éclairs individuels à chaque fois pour mettre un peu de lumière et éviter la catastrophe. Hier, c'est le Néerlandais Jorginho Wijnaldum, ici au micro de Canal+, qui a inscrit ses 2 premiers buts pour le PSG.
Oui, bien sûr, on doit progresser. À certains moments, nous avons bien contrôlé le match, on s'est créé des occasions. Malheureusement, on ne les a pas mises au fond. On doit mieux contrôler certains moments quand on a le ballon. Oui, ça a été difficile en deuxième période.
Inconstance, défaut de maîtrise, irrégularité, tous les synonymes y passent depuis 3 mois et quelques valeurs sûres ont même déchanté. Si Mbappé porte le PSG depuis plusieurs semaines, il a raté hier 3 duels décisifs face aux gardiens.
Nicolas Georgerobe à Leipzig pour RTL. Ce soir, il y aura toujours du foot avec la Ligue Europe. À 18h45, Lyon rencontre le Sparta Prague et Monaco reçoit le PSV Eindhoven. Et à 21h, Marseille accueille la Lazio de Rome. Match à suivre avec le son en fil rouge sur RTL et avec l'image sur W9. Et puis, il y a aussi la Ligue Conférence. Rennes affrontera à 21h les Slovènes de Moura.
Mais justement, si vous êtes en vacances, vous aurez tout le loisir et de prendre le temps pour regarder ce match.
Et oui, les vacances de la Toussaint se terminent dimanche et beaucoup ont trouvé la solution pour joindre repos et mobilité, le camping-car. L'année dernière, la vente de ce type de véhicule a augmenté de 20%. Reportage auprès d'une famille de camping-caristes dans le massif de l'Estérel, dans le Var, de Mickaël Lefebvre.
Je peux pas vous faire pour aller vous baigner, puis moi je prends les derniers trucs là, pour la plage.
Leur camping-car stationné au bord d'une route surplombant les calanques rouges de l'Estérel, Agnès, Bernard et leurs 3 enfants s'offrent une petite halte devant un paysage fabuleux.
Vous descendez puis je finis de préparer le pique-nique tranquillement.
Venus en voisin, ces Niçois, camping-caristes depuis 20 ans, passent leurs vacances de la Toussaint dans le Var, histoire, comme en témoigne Agnès, de reconnecter la famille.
Il n'y a pas de télé, on est vraiment tous les 5 ensemble et ça c'est très très sympa. Et quand on est en camping-car, et ben on se retrouve vraiment. C'est des moments qu'on passe pas chez soi, parce qu'il y a toujours autre chose à faire.
Anaïs, 14 ans, apprécie ces moments passés tous ensemble.
Trop génial. On a plus de temps, le temps de lire, on est tous ensemble, des fois on se crée un peu dessus, mais bon, ça va.
Une promiscuité qui ne perturbe pas plus que ça, Nicolas, 23 ans.
Ah bah c'est sûr que pendant une semaine, être à 5 dans 10 mètres carrés... Oui, on se retrouve forcément, on a le temps de discuter, de jouer, de faire plein de choses ensemble. Par la force des choses, on fait plein de choses ensemble.
Prochaine vacances prévues en février, au ski et toujours en camping-car.
Le reportage de Mickaël Lefebvre.
Par la force des choses, on fait plein de choses ensemble. Je ne sais pas si c'est très positif comme idée. Bon, on termine avec les courses qui ont lieu à Deauville aujourd'hui. On s'aère.
Départ à 13h50. Oui. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 11, le 9, le 3, l'As, le 2, le 7 et le 5. Et la dernière minute de Dominique Cordier, c'est le 3, Chasselet.
Le journal nous était proposé par Stéphane Genest. Il est 7h13, la politique avec vous, Julien Galibert. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est pas nouveau, hein, mais c'est criant. Le militant politique est une espèce, alors littéralement, en voie de disparition.
Oui, j'ai une petite histoire à vous raconter pour vous aider à comprendre là où on en est arrivé. Ça se passe à Lille, il y a 10 jours. C'est le premier grand meeting d'Anne Hidalgo. 1000, 1500 personnes dans la salle, les drapeaux, les affiches, la musique, avec des autocars remplis de militants venus d'Alsace, de Vendée ou de région parisienne. Bref, vu de loin, ça avait tout l'air...
D'une démonstration de force.
Oui, vu de loin. Mais du point de vue militant, c'était tout le contraire. Un énorme aveu de faiblesse. Pour remplir ce genre de salle à Lille, il y a quelques années, il suffisait que Martine Aubry claque des doigts.
Ah bah oui.
Là, confesse un socialiste, on a dû faire les fonds de tiroir en affrétant ses autobus. Et c'est vrai que les chiffres sont cruels. Au PS, il reste environ 20 000 adhérents à jour de cotisation. C'était 10 fois plus il y a à peine 10 ans.
Bah oui, mais est-ce que c'est mieux ailleurs ?
Non, ce n'est pas mieux. 20 000, c'est aussi l'estimation au Rassemblement National. Et là aussi, ça baisse. Chez les écologistes, ça grimpe, mais on en est seulement à 13 000 adhésions pour les Europe Écologie Les Verts. Chez les Républicains, beaucoup reprennent leur carte pour pouvoir voter Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Mais à votre avis, combien resteront si leur champion perd la primaire ? Ouais. Et puis chez les Insoumis ou LREM, un clic suffit pour s'inscrire et il n'y a rien à payer. Donc impossible d'y voir clair sur les vraies forces vives. Au parti présidentiel, d'ailleurs, on est en train de rappeler tous ceux qui ont laissé leur numéro pour voir qui est toujours motivé.
Ben, la question est claire, comment en est-on arrivé là ?
Pas la peine de chercher bien loin. Tous ceux à qui j'ai posé la question avaient 3 mots à la bouche, 3D, désamour, défiance et déception.
Et alors ce désamour, les partis l'ont intégré et ils tentent de se débrouiller autrement ?
Oui, hier soir, au QG de La République En Marche, petite sauterie avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui était là en VIP pour bichonner ou recruter des bénévoles. plutôt que de lever d'immenses armées, on se concentre désormais sur de petits bataillons avec des missions très précises. Les tracts, les affiches, ça compte toujours, mais c'est un peu dépassé. On met le paquet sur la riposte, sur la propagande, sur les réseaux sociaux. Il y aura beaucoup moins de meetings géants. Les nouveaux canaux de mobilisation seront numériques. Paris, les proches d'Emmanuel Macron en songeant à 2022. Mais ce qui est valable pour ces grandes structures l'est aussi pour les campagnes type Éric Zemmour, où on a bien compris que quelques dizaines de personnes bien organisées derrière leur clavier suffisaient à se faire entendre et à relayer certains messages.
Mais ça veut dire qu'on peut gagner une présidentielle sans militants ?
Alors il y aura toujours besoin d'un peu de monde pour faire la claque, pour distribuer quelques tracts sur les marchés, mais le militant numérique, le militant informatique est en train de supplanter le vieux de la vieille avec ses autocollants et ses drapeaux, et ça sera particulièrement visible dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup William Galibert, on vous retrouve sur RTL.fr pour toute l'actualité politique. 7h40, je vous le rappelle, c'est Natacha Bouchard qui sera l'invitée de Benjamin Sportouche, la maire Les Républicains de Calais. Elle s'inquiète d'un possible retour massif de migrants dans sa ville. On évoquera aussi la situation avec le Royaume-Uni. Bien entendu, on parlera de la pêche. Rendez-vous dans une trentaine de minutes.
Yves Calvi, RTL Matin.
Les deux prix littéraires les plus prestigieux ont donc été décernés hier. Le Goncourt au jeune auteur sénégalais Mohamed Mbougarsar pour son roman La plus secrète mémoire des hommes, et le Renaudot à Amélie Nothomb pour Premier sang. Allons plus loin ce matin avec notre brigade RTL. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Qui contribue à la renommée de ces prix, c'est leur force de prescription. Quelles sont les plus efficaces ?
Oh, il n'y a pas photo, c'est le Goncourt sans contestation. Le décroché, c'est la quasi-certitude de vendre en moyenne 360 000 exemplaires. Suit le Goncourt des lycéens, 315 000, et sur la troisième marche du podium, le Renaudot, justement, 220 000 exemplaires. Alors, ce ne sont que des moyennes. L'an dernier, par exemple, l'Anomalie, le prix Goncourt du romancier Hervé Le Tellier, a séduit près d'1 100 000 acheteurs, et il figure toujours aujourd'hui dans les meilleures ventes en librairie. On peut citer d'autres belles réussites, plusieurs Goncourt à 500 000 exemplaires dans les 20 dernières années. Jean-Christophe Ruffin, par exemple, et son roman Rouge Brésil, Pierre Lemaître pour Au revoir là-haut, ou encore Leïla Slimani et sa chanson douce.
Est-ce qu'un prix Goncourt peut faire un flop ?
C'est rare, mais ça existe. Les deux plus retentissants, 80 000 exemplaires, ça frise le ridicule pour un Goncourt, ont eu lieu, coïncidence, 2 années de suite, en 2002 et en 2003. 2003, circonstance aggravante, c'était l'année du centenaire du Goncourt. Et le bonnet d'âne était revenu à la maîtresse de Brecht de Jacques-Pierre Hamet.
Une question inédite se pose cette année, comme pour d'autres matières, on manque de papier. Alors, trouvera-t-on les livres récompensés dans les librairies ?
Oui, oui, les éditeurs en lice pour les prix avaient anticipé depuis plusieurs semaines. Ils avaient constitué des stocks de papier. L'un d'entre eux me disait qu'en cas de victoire de son auteur, 200 000 exemplaires étaient prêts à partir pour l'impression le jour même. Donc, pas d'inquiétude, vous trouverez le Goncourt et le Renaudot 2021 et aussi tous les autres prix pour vos cadeaux de Noël.
Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans un instant, RTL événement avec Alice Moreno qui a pu assister à une rencontre entre des policiers et des jeunes de quartier populaire. L'objectif est de recréer du lien et du dialogue entre les forces de l'ordre et la jeunesse.
RTL événement.
La fracture entre les ados des quartiers dissensibles et les policiers est-elle irréparable ? Interpellations violentes de jeunes, guet-apens tendus à des fonctionnaires, les images relayées par les médias se limitent souvent au rapport de force entre la police et la population. Créer des espaces d'échange pour renouer le dialogue, c'est ce que propose l'association Graines de France, des rencontres entre enfants, adolescents, des cités et des policiers. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
80 enfants et ados se sont d'abord réunis dans un gymnase autour de plusieurs ateliers.
Oui, un des groupes d'adolescents retire ses chaussures, direction le tatami pour l'atelier Libération de la Parole.
Il y en a déjà qui ont parlé avec la police dans leur vie. Okay.
Moi, ouais.
Ils partagent leur expérience avec la police, plus ou moins musclée. Dans une autre salle, l'ambiance est plus studieuse, c'est l'atelier d'écriture.
On est en train d'écrire une histoire sur une femme qui vit dans un pays où la police n'existe plus. Et donc, elle va raconter des délits ou des crimes dont elle est témoin pour montrer qu'elle est contre la suppression de la police.
Adossée à un mur, une adolescente de 12 ans reste à l'écart. Maya a déjà des idées très tranchées sur la police.
Ils sont trop violents quand ils font leur travail. Quand ils contrôlent l'écran de chez nous, ils sont méchants.
Pour toi, le rôle de la police, c'est quoi ?
De nous faire sentir en sécurité, mais ils font l'inverse. Genre, on doit se défendre de eux au lieu de
C'est eux qui nous défendent.
Elle a déjà vu des plus âgés se faire interpeller dans la cité. Les réseaux sociaux finissent de la convaincre.
Il y a des vidéos sur Internet des fois où il y a des violences policières.
Elle mentionne Adama Traoré, George Floyd, mort pendant des interventions de police, des affaires ancrées dans son esprit et dans ceux de nombre de ses petits camarades.
Et à l'issue des ateliers, vient le temps de l'échange direct avec les policiers.
Oui, la foule d'enfants s'assied en cercle sur le terrain de foot. Avec eux, des policiers municipaux et nationaux. Les questions fusent sans tabou.
Pourquoi les policiers font des bavures policières? Aussi, ils parlent mal quand ils nous contrôlent.
Pourquoi il y a des bavures policières? Eh bien, parce que le policier, il est humain. Donc l'humain, par nature, il fait des erreurs. Donc, sauf que, faut le savoir, le policier qui fait des erreurs, il a la double, voire la triple sanction.
Cette brigadière-chef d'un équipage qui intervient quotidiennement dans le quartier de la Noé détaille les sanctions judiciaires, administratives. Pour modérer et animer cet échange, Reda Didi, cofondateur de l'association Graines de France.
L'idée là, c'est pas de leur apporter la bonne parole, c'est de leur permettre de repartir chez eux avec plus de questionnements que de réponses, en se disant s'ils ont affaire à des discours un peu caricaturaux ou essentialistes, disant tous les policiers sont, et ben, ne pas rentrer dans cette type de logique en disant non, moi j'en ai rencontré qui étaient pas du tout sur ce mode-là.
Parmi les policiers participants, Jérôme Jiménez, délégué UNSA Police Île-de-France.
Si vous voulez, avec la disparition de la police de proximité, je pense qu'on a perdu un petit peu ses repères, ses échanges qu'on pouvait avoir. Je crois qu'il faut repasser par des actions de ce type, il ne faut pas hésiter à les mettre en place. On peut désamorcer beaucoup de situations, tout simplement avec de l'échange constructif.
Du côté des ados, c'est un peu plus mitigé.
C'est bien pour savoir que les policiers ne sont pas tous méchants. Il faudrait que des deux côtés fassent des efforts. Par exemple, que les jeunes, eux aussi, ils cherchent pas et que les policiers soient moins violents, beaucoup moins violents même, parce qu'ils abusent de leur pouvoir.
Un responsable d'association locale, Baran El Fakar, veut quand même croire à un effet positif.
Pas évident, bien sûr, on est sur Chantroux-les-Vignes, le quartier La Noé, un endroit où a été tourné, où des scènes du film La Haine ont été tournées. Oui, il y a la méfiance, défiance. Voilà, on constate aussi que plus tôt on est confronté à un policier, plus mieux on comprend son travail, plus on appréhende aussi son humanité. Moins on aura de chance de lui lancer un pavé de 3 kilos au visage 3 ans après.
Lui aussi organise régulièrement des rencontres entre de jeunes adultes et la police locale dans l'espoir de maintenir ce lien fragile entre la population et les forces de l'ordre.
Merci beaucoup Alice Moreno. RTL événement à retrouver sur rtl.fr.
RTL matin, Yves Calvi.
Il est 7h23, on est ravis de retrouver notre pépite musicale avec vous, Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors on va démarrer comme ça.
Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux.
Robert Charlebois et sa chanson « Ordinaire », 45 tours de 1970. Il vivait à l'époque avec sa parolière. Ils accusaient le coup après l'échec cuisant d'un spectacle. Et un soir, elle a laissé sur la table de la cuisine ce texte intime, inspiré par cet échec. Un texte sur la gloire et le métier d'artiste. Ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Et le lendemain matin, Robert Charlebois en avait fait une chanson. « Ordinaire » est né comme ça. « Ordinaire » était le morceau préféré de René Angélil, le mari de Céline Dion. Peu de temps avant la mort de René, Céline Dion avait décidé d'interpréter cette chanson. La parolière d'origine a retouché son texte pour Céline Dion, pour que ça lui colle à la peau. Elle ne l'a pas simplement mise au féminin. Le résultat est assez puissant. Charlebois a été scotché. C'est notre pépite du jour. Céline Dion chante « Ordinaire ».
J'espère vous laisser une trace et graver la vie dans vos cœurs, que de l'amour et du bonheur.
version originale, Robert Charlebois n'était pas un clown psychédélique. Céline Dion, elle, vous l'avez entendu, n'est pas un animal de cirque. On trouve ce morceau dans son album Encore un soir. Il raconte les failles, donc le côté humain et anti-héros de la star. C'est le cœur même du film Aline de Valérie Lemercier, inspiré par la vie et la carrière de Céline Dion. Et cette version de la chanson Ordinaire a vraiment une place importante dans le film.
On ne manquera pas d'en parler avec Valérie Lemercier tout à l'heure à 9h, puisqu'elle est notre invitée avec Stéphane Boutsock dans Laissez-vous tenter. Merci beaucoup Anthony pour cette pépite. On se dit à demain, bien sûr. Et à tout moment sur RTL.fr. Louis Baudin est avec nous dans un instant. Va vous nous interpréter notre temps d'automne, n'est-ce pas ?
Ça, bah oui.
Ça sera sans doute moins dramatique.
J'ai pas de doute. Oui, je pense.
Tout de suite.
Magasin. RTL Matin.
On retrouve nos grosses têtes dès 15h30 autour de Laurent Ruquier avec quelques fake news, comme nous les savons les aimer.
Éric Zemmour m'a menacé de me renfermer dans un loft si je ne changeais pas de prénom.
Jean Castex m'a appelé pour savoir si j'avais besoin d'une aide gouvernementale à cause de l'augmentation du prix du pain.
Valérie Trierweiler.
Attention, une production théâtrale m'a contactée pour reprendre les monologues du vagin avec mes deux copines, Julie Gayet et Ségolène Royal.
Mais pourquoi pas ? Évidemment.
Tu vas le faire
maintenant, j'ai que ça à faire.
Caroline Diamant.
J'ai amené Bernard Mabiche et comme j'aime, le nutritionniste a dit qu'il était médecin, pas magicien.
D'autodérision de Valérie Trierweiler depuis qu'elle est avec Laurent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien justement, aujourd'hui, autour de Laurent Ruquier, Stéphane Plaza, Valérie Mérès, Sébastien Thoen, Bernard Mabille, Florian Gazan et Julie Leclerc. Louis Baudin, expliquez-nous notre journée.
Oh ben voilà, c'est une belle journée d'automne, comme vous l'avez dit, hein, avec tous les ingrédients, donc des averses. Il y en a en ce moment en Normandie, il y en a entre le Nord-Pas-de-Calais et l'Île-de-France, il y en a dans le Nord-Est, il y en a dans le Sud-Ouest, il y en a presque partout, mais y compris dans le Sud-Est, d'ailleurs, autour de la vallée du Rhône. Et ça va être comme ça toute la journée, donc alternance entre des passages nuageux, nombreux, des éclaircies toutes petites et puis des averses. Alors sous forme de pluie ou de neige, on aura encore quelques flocons dès 900 ou 1000 mètres sur les Vosges, Jura ou encore les Alpes au cours de cette journée. Même chose entre le Massif central et les Pyrénées. Il y en aura pour tout le monde. Alors sauf près de la Méditerranée où là, avec l'aide du vent, hein, Mistral et Tramontane jusqu'à 70 km par heure, on aura un ciel un peu plus dégagé. Ça n'empêchera pas quelques averses en Corse. Et puis le tout avec un courant nord, donc de l'air froid. Hein. Ce matin, il y a quelques gelées à Angers, à Mende ou encore à Blois. Et cet après-midi, pas plus de 8 à 10 degrés dans le nord-est, hein, Lorraine, Alsace, ça commence à être froid, 10 à 12 degrés dans les autres régions de la moitié nord, avec le petit vent de nord en plus sera plus désagréable, 11 à 13 degrés dans le sud, 13 à 17 18 degrés quand même près de la Méditerranée.
La fraîcheur s'installe, merci Louis Baudin, merci à vous qui nous êtes fidèles, RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Alexandre de Saint-Aignan pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 4 novembre. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous. On connaissait Clémentine Cellari, la comédienne. On la découvre aujourd'hui combattante. L'actrice nous a révélé ce matin sur RTL qu'elle a eu un cancer du côlon. C'est la première fois qu'elle accepte d'en parler, dire la vérité pour se soigner avec toujours la même énergie et le même humour.
Je demande au public de ne pas me regarder d'un air de, avec une, un petit de pitié, mais d'envie. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, je considère que j'ai eu énormément de chance. Souvent, les êtres qui ont traversé des épreuves sont enrichis de cette épreuve. Vous comprenez? Ce qui ne te tue pas, bah oui, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Bah, c'est vrai. C'est Nietzsche qui avait dit ça. Bah, c'est vrai. Voilà, j'espère qu'ils me regarderont pas avec dans le train, parce que je prends beaucoup le train en ce moment. S'il y en a un qui me regarde avec un air de pitié, je lui fais un gros baiser sur la bouche. Non, je rigole.
Voilà Clémentine Cellari qui
regardait dans les yeux.
Alors. Oui, ça c'est sûr. Qui raconte son combat contre le cancer dans un livre qui paraît aujourd'hui, Les mots défendus, c'est chez Albin Michel.
Dans l'actualité ce matin, la fin pour le climat de ce qui n'était finalement qu'une parenthèse.
La pandémie avait mis à l'arrêt une bonne partie de la planète et de son économie très dépendante des énergies fossiles. En pleine conférence pour le climat, une étude publiée ce matin sonne l'alerte. Les émissions de CO2 sont reparties de plus belle, Virginie Garin.
Oui, elles retrouvent pratiquement leur niveau d'avant la pandémie. En 2020, les émissions avaient baissé de plus de 5%. Eh bien, elles vont progresser d'à peu près autant cette année, avec de grosses différences selon les pays. La hausse est modérée en Europe ou aux États-Unis. En revanche, l'Inde va polluer beaucoup en 2021, plus 12%. En Chine, même avec le Covid, les émissions ont continué d'augmenter et ça s'accélère. La planète est donc sur une mauvaise trajectoire. En fait, pour arriver à limiter le réchauffement à 2 degrés, il faudrait réduire les émissions de 6% par an alors qu'elle continue de progresser. La France, elle, va plus émettre cette année qu'au moment des confinements, mais si on regarde sur 4 ans, la courbe est en baisse. Selon les scientifiques, il est encore possible de respecter nos promesses sur le climat, à condition d'accélérer le développement des énergies vertes ou l'isolation des logements. C'est donc vraiment l'Inde et la Chine qui inquiètent et qui doivent absolument, cette semaine à Glasgow, annoncer des efforts supplémentaires.
Les explications signées Virginie Garin pour RTL.
Une nouvelle étape aujourd'hui dans le bras de fer entre la France et l'Angleterre dans le conflit sur les licences de pêche.
Une rencontre est prévue entre le secrétaire d'État britannique en charge du Brexit et Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes. Ils vont se retrouver à Paris. Les discussions se poursuivent avec toujours la menace de sanctions côté français. Une nouvelle réunion aura lieu demain, cette fois-ci à Bruxelles, à la Commission européenne. Un drame dans la Manche hier suite au naufrage de plusieurs embarcations de migrants. L'un d'entre eux est mort, un autre est porté disparu. Plus de 400 personnes au total ont pu être récupérées par les autorités françaises. Des migrants prêts à tout également en Méditerranée. Une dizaine de Syriens ont accosté mardi soir sur une plage de Porto Vecchio. Et parmi eux, notamment 6 femmes et des enfants. Le maire de la commune de Porto Vecchio, Jean-Christophe Angelini.
On les soigne d'abord, on les nourrit, on fait en sorte qu'elles soient réconfortées, rassurées et accompagnées. On dialogue avec elles via un traducteur et ensuite donc s'ouvre le temps de la procédure qui a duré toute la nuit jusqu'au moment où au petit matin on les héberge en un lieu mis à disposition par un hôtelier porto-vecchier sur demande de la mairie.
Des propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Un Français sur deux souhaite vivre dans le centre d'une petite ville, selon une étude, alors que de nombreux commerces sont contraints de baisser le rideau. RTL consacre une matinale spéciale. Rendez-vous dans le journal de 8h pour découvrir l'histoire incroyable d'un retraité qui a investi 500 000 euros pour racheter et sauver les commerces de sa commune.
Ce sera aussi le sujet de notre débat de 8h20. Le triomphe de la francophonie hier lors de la remise du prix Goncourt.
C'est l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr qui a remporté la plus prestigieuse des récompenses littéraires françaises pour son roman La plus secrète mémoire des hommes aux éditions Philippe Ray. Il se souviendra sans doute toute sa vie de ce qu'il était en train de faire quand il a appris la nouvelle.
Quand mon éditeur a reçu le fameux coup de fil, j'étais aux toilettes. Ça n'a rien de très glorieux, mais en même temps, c'est extrêmement drôle sans doute. Mais j'ai pensé à beaucoup de gens. Je le dédie d'abord à tous les écrivains qui cherchent et qui consacrent leur vie à ça. Ensuite, évidemment, je le dédie à ma famille. Je pense à tous les professeurs qui m'ont formé. Mais je suis heureux que tout ça parte d'un livre parce que c'est la seule chose à laquelle je crois.
Voilà le nouveau lauréat du prix Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr, avec Bernard Lehu pour RTL.
Nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure dans Laissez-vous tenter. En foot, le Paris Saint-Germain se cherche encore. Hein.
En Ligue des Champions, hier soir face à Leipzig, la rencontre s'est terminée sur un match nul de partout. Privés de Lionel Messi, les Parisiens ratent l'occasion de faire un grand pas vers les huitièmes de finale. Ils sont désormais deuxièmes de leur groupe derrière Manchester City. Plusieurs matchs à suivre ce soir en Ligue Europe, 18h45, Lyon contre le Sparta Prague et Monaco face au PSV Eindhoven à 21h. Marseille reçoit la Lazio de Rome. Match à suivre en fil rouge sur RTL et à la télé sur W9. Notez également que Rennes en Ligue Europe Conférence affrontera Murat. Ce sera également à 21h.
Le tennis maintenant, au tournoi de Paris-Bercy. On va suivre aujourd'hui le duel entre Gaël Monfils et Novak Djokovic. C'est en huitième de finale.
Le numéro 1 français amoindri par une blessure avant d'affronter le leader mondial. Il le reconnaît lui-même. Une victoire tiendrait du miracle.
On va essayer, c'est le 18e. En premier, je ne vous cache pas, je vais faire quand même des examens. Je me suis fait bien mal. Donc je veux jouer à pas loin de 100%, j'ai envie d'être pas loin d'être à 100%. Déjà qu'à 100% je le bats pas, donc si je suis pas à 100%, compliqué. Donc je pense que très vite là je vais aller à ma récupération, voir si je peux faire des images et au moins m'enlever ce voile quoi.
Voilà Gaël Monfils qui se prépare donc à affronter Novak Djokovic. Il répondait à nos confrères d'Eurosport.
Merci Alexandre de Saint-Aignan. On se retrouve tout à l'heure à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, vous pensiez que les Lego, ça n'était que pour les enfants.
Mais non, mais non.
Eh bien, vous allez être surpris.
À tout à l'heure, dans un instant, l'Angle Éco avec Martial Liu. Et une grande opération en faveur du tourisme en France à l'Elysée aujourd'hui, cher Martial.
Ah oui, on met les petits plats dans les grands. Une soixantaine de patrons du tourisme à l'hôtel de la Marine et à l'Elysée pour déjeuner.
Vos explications dans un instant.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, Langue l'écho avec vous, Martial You.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Emmanuel Macron joue aujourd'hui les JO du Club France et va tenter de convaincre une soixantaine de patrons du secteur du tourisme qu'il faut venir passer ses vacances dans l'Hexagone. Alors vous aurez là les principaux tour opérateurs, les hôteliers, Booking, TripAdvisor. On déjeune à l'Elysée, puis on discute à l'hôtel de la Marine, ce qui n'est pas désagréable. Ben oui. Le tourisme français a besoin de ça ?
Oui, il y a urgence. Alors souvenez-vous, en 1989, Thierry Lhermitte vantait les vacances au Club Med en nous disant...
Le bonheur, si je veux.
Bon, ça fait toujours plaisir, de toute façon, de retrouver une vieille pub. Mais oui. Aujourd'hui, le secteur du tourisme, c'est le bonheur, si je peux.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, parce qu'on a trop peu investi dans ce secteur au cours des dernières années. Le parc a vieilli. Le secteur a bien sûr été ébranlé par le Covid, mais il avait déjà commencé à décliner avant. Avant la pandémie, vous aviez déjà 15 à 20% des touristes étrangers en transit qui passaient quelques jours, voire quelques heures à Paris, avant de partir pour Londres, Barcelone ou Florence, dépenser leur dollar ou leur yuan.
Mais vous êtes en train de nous dire que la France est en train de perdre sa place de champion du monde ?
Le risque est là. Et ouais. C'est bien ce qu'Emmanuel Macron va essayer de sauver aujourd'hui avec sa réception en grande pompe. Il faut éviter précisément le coup de pompe. Avant Covid, on ambitionnait d'atteindre 100 millions de visiteurs étrangers dans le pays pour 2020. On y était presque en 2019, puisqu'on avait accueilli pratiquement 90 millions de touristes. Mais en 2020, on est tombé à 40 millions, et cette année, on accueillera environ 50 millions de voyageurs. Un groupe comme Bel en Bras a fait 400 000 euros de chiffre d'affaires l'hiver dernier, alors qu'il réalise 55 à 60 millions de chiffre d'affaires en temps normal. Mais sur l'hiver.
Martial, dites-moi, c'est un secteur qui a quand même largement été soutenu par le quoi qu'il en coûte, non ?
Ah oui, c'est vrai, ça. 38 milliards d'aides de l'État depuis 2 ans. Mais le vrai problème, il est beaucoup plus profond que ça. La France n'est plus que le 3e pays touristique au monde en termes de recettes. En gros, les touristes qui viennent en France dépensent moins que ceux qui vont aux États-Unis ou qui se rendent en Espagne. Le voyageur en France dépense 663 euros chez nous quand il en dépense 963 en Espagne.
Et évidemment, ça a des conséquences sur la rentabilité du secteur chez nous.
Le tourisme en France, c'est 7,5% du PIB. C'est deux fois plus gros que l'agriculture. Ce sont 2 millions d'emplois. À Paris, le shopping des touristes étrangers pèse 2 milliards. Alors il faut évidemment secourir les hôtels, restaurants, musées, campings, parcs d'attractions, sites. Et cet après-midi, les géants d'Internet vont jouer le jeu. Mm-hmm. Booking, TripAdvisor, Airbnb devraient annoncer des campagnes de publicité à l'étranger pour valoriser la destination France.
Emmanuel Macron avait aussi annoncé un vaste plan pour le tourisme.
Oui, un plan de reconquête, c'était le mot. Hein, en juin, à Saint-Cyr-la-Popie.
Alors, oui.
Et il se murmure que le chef de l'État n'était pas très satisfait par les propositions du gouvernement. C'est visiblement un peu le problème en ce moment. Mais le plan devrait quand même être annoncé avec un tout petit peu de retard avant la fin du mois.
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déverser encore des milliards ?
Possible, mais pas uniquement. D'abord, il faut sécuriser les vacances à la neige. Et selon mes informations, une réunion a eu lieu hier à Matignon sur le sujet pour laisser les stations ouvertes, ne pas parler de passe sanitaire et laisser les stations gérer le protocole sur place, le protocole sanitaire. Un slogan serait même déjà trouvé. Cet hiver, c'est ouvert. Et puis ensuite, il faut faciliter l'investissement des groupes de tourisme pour qu'ils renouvellent leurs sites et leurs équipements. Certains hôtels ne sont plus au niveau international. On pourrait donc allonger la durée de remboursement des prêts garantis de l'État, les fameux PGE. Les groupes ne les rembourseraient pas, par exemple, en 6 ans, mais plutôt en 12 ans pour garder de la trésorerie qui permette d'investir plutôt que de rembourser. Reste une question cruciale qui sera sans doute évoquée dès cet après-midi à l'Élysée et à l'hôtel de la Marine. Aurons-nous une date de mise en service du CDG Express, ce train qui doit rallier Roissy au centre de Paris en 20 minutes. On avait parlé de 2024 pour les Jeux. Bon, ça, on a compris que c'était raté. Bon. Et tous les professionnels attendent une date entre aujourd'hui et la fin du mois. L'avenir du tourisme passe aussi par ces infrastructures.
Vous avez parfaitement raison. Merci, Martial You. On vous retrouve sur RTL.fr pour toute l'actualité économique. Il est 7h43. Bonjour Benjamin Sport.
Bonjour et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
La maire Les Républicains de Calais. Calais qui doit de nouveau faire face à un afflux de migrants qui cherchent à traverser la Manche. Alors quelle solution ? On en parle avec Natacha Bouchard.
A tout de suite avec la maire de Calais sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sport, toujours recevez donc ce matin la maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard.
Bonjour Natacha Bouchard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors il y a 5 ans tout juste, Natacha Bouchard, la jungle de Calais a été démantelée. C'était le plus grand bidonville de France, on s'en souvient à l'époque. Et aujourd'hui, il y a de nouveau des migrants qui cherchent désespérément à rejoindre l'Angleterre depuis votre ville. Est-ce que vous craignez, vous, un nouveau campement géant à Calais ?
Écoutez, avec le dispositif qui apparemment veut être mis en place depuis hier soir... Je dois dire que tout cela n'est pas rassurant pour la période hivernale dans laquelle nous allons entrer.
Alors, je le rappelle, le gouvernement, justement, par la voix de son médiateur, a installé depuis hier un sas de mise à l'abri, hein, c'est-à-dire un lieu pour accueillir les migrants juste une nuit avant de les orienter vers d'autres centres en dehors de Calais. Et pourquoi cette solution ne vous convient pas ?
Pourquoi ? Parce que nous avons essayé déjà cette solution il y a bien des années, que tous les dispositifs qui ont été mis en place, malheureusement, ont échoué, et que celui-ci, je ne vois pas pourquoi il réussirait, puisque à partir du moment où on veut héberger même une nuit 300 migrants, le lendemain, eh bien, les associations, les passeurs, les activistes vont en amener d'autres territoires.
Vous craignez un appel d'air, c'est ça que vous nous dites, Natacha Bouchard ?
Complètement, et on risque de se retrouver avec cet appel d'air et avec une gestion humanitaire que ne va pas pouvoir régler et maîtriser.
C'est-à-dire que ce sas de mise à l'abri a été mis en place contre votre avis ?
Oui, contre mon avis, sans même mon avis, en fait. Donc, je ne pense pas que ce soit de toute manière la bonne des méthodes. Je ne pense pas être un maire classé d'extrême droite ni d'extrême droite, de gauche. Je pense avoir toujours été dans la fermeté et l'humanité. Je sens qu'actuellement, malheureusement, à 6 mois des élections présidentielles, chacun va vouloir revenir avec son petit dispositif sans prendre en compte la qualité de vie, des droits aussi des Calaisiennes et des Calaisiens. Il me semblait beaucoup plus important de mettre en place des bus qui puissent tourner dans l'après-midi et dans le courant de la soirée pour que les mises à l'abri soient faites dans les meilleures conditions possibles à l'extérieur, en fait, de Calais et de son agglomération.
Le ministre de l'Intérieur dit, lui, fermeté et humanité. Voilà ce qu'il oppose.
Fermeté et humanité, ce sont les termes que j'ai employés en 2015. Mmh. Ce ne sont pas les siens, ce sont les miens. Simplement, fermeté, humanité, encore faut-il pouvoir en avoir usé et expérimenté les différents dispositifs. Vous comprenez, ça fait 12 ans qu'on expérimente des dispositifs qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, ce que je demande au gouvernement, c'est au président de la République une interministérielle pour que...
Une réunion interministérielle.
Oui, complètement, avec le ministre de l'Intérieur, celui de la Justice, de l'Immigration, des Affaires étrangères, puisque nous sommes aussi touché économiquement le ministre de l'économie. Et puisque nous sommes devenus ville frontière avec, bien évidemment, Boris Johnson, avec qui il faut engager aujourd'hui le bras de fer pour réviser les accords du Touquet qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 20 ans et profiter de cette occasion pour engager aussi ce bras de fer pour l'intérêt de nos pêcheurs.
Mais bras de fer, on va venir aux pêcheurs juste après, mais bras de fer avec les Anglais sur cette question des migrants, en leur demandant quoi exactement, Natacha Bouchard ?
En leur demandant de revoir complètement leur dispositif concernant leurs conditions d'accueil, de travail, puisque on sait très bien qu'un migrant arrivant en Angleterre est pris en charge, il est logé, il a une soulte, hein, il a un revenu, il y a des entreprises qui sont prêtes à les accueillir, ils sont logés pendant 2 mois. Donc oui, pour eux, l'Angleterre reste un Eldorado, mais le gouvernement britannique n'a pas le courage de revoir sa législation dans le domaine.
Donc cet afflux de migrants dans votre ville, vous dites que c'est d'abord la responsabilité des Anglais ?
Oui, et tout à fait, c'est la première des responsabilités. Ce sont eux qui créent l'appel d'air avec leurs conditions d'accueil et qui imposent depuis maintenant plus de 20 ans aux Calaisiennes et aux Calaisiens ce que nous avons vécu comme traumatisme chaque jour.
Quelle est la situation justement, les rapports entre ces migrants et vos habitants, les Calaisiens, aujourd'hui ?
Ma position a toujours été, comme vous le savez, celle un peu d'un funambule. C'est que je ne veux pas engagé de position radicale les uns envers les autres. Donc il est de mon devoir de pouvoir faire en sorte d'essayer d'apaiser les Calaisiennes et les Calaisiens. Voilà pourquoi mon investissement est entier et total. Et de la part des migrants, c'est de pouvoir m'appuyer sur la justice qui doit opérer aussi, son travail quand il y a trouble à l'ordre public. Et malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux.
Depuis le 11 octobre, Natacha Bouchard, le prêtre Philippe de Mester, qui a 72 ans, et deux jeunes militants associatifs sont en grève de la faim dans l'église Saint-Pierre de votre ville à Calais. Ils réclament une trêve hivernale. Ils disent aucune évacuation pendant la période de froid dès maintenant.
Aucune évacuation, ça n'est pas possible. Et ils le savent très bien. Cette attitude a été, il y a maintenant, en 2008, déjà tentée par un prêtre de l'époque. Ils savent très bien que si il n'y a pas d'évacuation, nous allons nous retrouver avec des situations d'insalubrité telles que nous l'avons connue pendant la jungle ou la lande. Et donc, il est impossible pour nous à devoir ne pas faire d'évacuation. Ce que je veux rappeler, c'est que les biens, en tous les cas, des migrants sont toujours mis à l'abri puisqu'ils le sont à la ressourcerie. Et bien souvent, d'ailleurs, ils ne vont pas les chercher puisque les associations ont suffisamment de moyens pour chaque jour apporter à ces personnes migrantes du matériel neuf et donc salubre pour qu'ils puissent l'utiliser.
Donc vous les appelez à cesser leur grève de la faim ?
Tout à fait, je les invite à cesser leur grève de la faim.
Très rapidement, Natacha Bouchard, l'autre problème qui affecte votre ville, c'est la crise des pêcheurs avec la Grande-Bretagne. Que vous disent vos marins pêcheurs ? Est-ce qu'ils gardent espoir ?
Ils gardent espoir. Il faut en avoir du moral pour garder espoir. Ils gardent espoir parce que ils ont autour d'eux, je dirais, un environnement favorable. Est complètement inadmissible qu'ils n'obtiennent pas leur licence. Et je pense que nous irons jusqu'au bout de ce combat. Il faut bien comprendre que les Britanniques sont toujours dans le bras de fer et que le nôtre est toujours malheureusement beaucoup trop faible. Donc on demande au gouvernement, au président de la République, la plus grande des fermetés dans ce domaine.
Merci beaucoup Natacha Bouchard.
Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.
Natacha Bouchard, maire de Calais, qui demande une réunion interministérielle pour engager le bras de fer, je cite, avec Boris Johnson sur la question des migrants. Les Anglais sont responsables, vient de nous dire la maire de Calais. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à vous deux. Dans un instant, Philippe Cavrivière nous rejoint sur RTL.
L'œil de Philippe Cavrivière.
7h56, bonjour Philippe.
Et bonjour.
Notre invité, la maire de Calais, Natacha Bouchard, n'était pas avec nous en studio aujourd'hui.
Pauvre Benjamin Sportouche. Déjà qu'il ne fait pas souvent l'interview du matin, en plus les invités ne se déplacent même pas pour le voir. Bon, remarquez, quand il se déplace, il l'insulte.
Vos questions sont quand même assez débiles.
Ouais, bah oui. Bon, c'est bien lui, hein. c'est moi.
Natacha, la maire de Calais, était sous le coup de la déception, on l'a bien entendu. Sa ville n'était pas dans le classement des 4 villes les plus moches en France. Alors que les Calaisiens se battent depuis des années pour décrocher cette coupe. Félicitations au Havre qui remporte sans surprise le trophée de la ville la plus moche pour la 47e fois d'affilée. C'est mérité. Et par contre, grosse déception pour mon chouchou Sochaux qui a toutes les qualités pour aller chercher ce titre. Allez Sochaux.
Alors la grosse actu, c'est l'ex-otage Sophie Pétronin qui est retournée secrètement au Mali depuis mars 2021.
Ne serait pas en train de se foutre un petit peu de notre gueule, ma mystère Adam ? C'est une ado fugueuse de 76 ans. Bah déjà, c'était la Lionel Messi des otages. Ça avait coûté des millions pour la ramener à Paris. Alors bien sûr, hier, ça a fait polémique parce qu'on pense aux soldats qui ont risqué leur vie pour elle. Hein. Déjà, la première fois qu'ils ont dû la chercher, on leur avait montré la photo. Ils avaient dit « La vieille, là !» Vous êtes sûr que ça vaut le coup ? Voilà, qu'on va leur remontrer la photo, ils vont dire « Alors, c'est bon, hey, pas deux fois, ils se démerdent hein. !»
Oh là là, bah alors c'est vrai que son retour au Mali a suscité de vives réactions. Certains ont même mis en doute la santé mentale de Sophie Pétronin.
Après Tintin au Congo, Zinzin au Mali. Vous vous rendez compte que nos services secrets, le service français, n'arrive pas à surveiller une mamie de 76 ans sans chicot, et ils nous disaient « Vous inquiétez pas, hein, pour les fichiers S qui sont en France, on gère. Alors, pour se rendre au Mali, mes mères ont pris l'avion, la moto-taxi, le bus, le 4x4 depuis le Sénégal. Bonjour, le bilan carbone, même identifrice. En plus, en pleine COP26. On te félicite.
Bon, comment expliquez-vous son attirance pour le Mali?
Pour le Malien, il... Ah, enfin, il y a un mec derrière tout ça. Il y a un grand black au corps musclé qui l'attend là-bas. Si ça se trouve, au Mali, elle ne vit pas Koh-Lanta, hein. C'est plus l'île de la tentation. Une tentatrice, Sophie, 76 ans. Face à elle, 4 célibataires. Abdoulaye, Boubacar, Ousmane et Adama. Ils sont beaux, ils sont jeunes. Ils brûlent de désir pour la sulfureuse septuagénaire. Qui remportera le corps et le cœur de Sophie? Réponse dans l'île de la tentation malienne.
Bon, écoutez, sans transition, depuis hier 9h22, les femmes travaillent gratuitement, et ce jusqu'à la fin de l'année.
Eh ben, je viens de comprendre pourquoi Alba Ventura s'était barrée.
C'est normal, oui. Il y a une logique.
Mais je trouve ça totalement injuste que les femmes soient moins payées que nous, et en même temps... côté du bon côté de l'injustice, t'es moins pressé que ça change. En fait, nous les hommes, on a un peu peur qu'on rééquilibre l'écart avec nos sous, à nous. Donc on regarde l'injustice, on s'émeut un petit peu, puis on dit « Bon, bah c'est pas le tout, mais qu'est-ce qu'on mange ?»
Hier, on a enfin appris le nom des lauréats des prix Goncourt et Renaudot.
Oui, tout à fait. Il faut toujours sortir les lunettes, oui, hein, oui. C'est la technique Pascal Praud, ça fait intelligent. Deux jours dans l'année, on fait semblant qu'on ne peut pas vivre sans la littérature. C'est une immense déception pour nous à la rédac. Notre poulain, notre petit protégé Rico Zemmour, Rico le magnifique, avec la France, n'a pas dit son dernier mot. C'est fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est fait voler la récompense. Et en plus, il perd contre Mohamed Bougarsar, un Sénégalais. Bon, bah, écoutez, je croyais que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Visiblement, il est rentré dans la bibliothèque.
Jean-Luc Lahaye a été entendu dans une affaire de viol sur mineur.
Alors, c'est horrible ce genre de comportement. Je vais être très clair, hein. J'ai réécouté le répertoire de Jean-Luc Lahaye. Oui. Il n'y a rien qui autorise ce genre d'acte. Autant Michael Jackson. Quand t'as écrit Billie Jean, Beat It, Thriller, c'est pas que t'as le droit, mais il y a une petite tolérance. Quand t'as écrit Papa Chanteur, tu fais l'amour à des adultes, tu demandes la permission, tu dis merci, oui, et tu, en partant, et tu fais profil bas. Voilà. Quand t'auras écrit ça... Voilà, tu pourras retourner jouer dans la piscine à boules, Jean-Luc. Pas avant.
Philippe Cavrivière, tous les matins sur RTL. Est-ce que je tente une petite météo rapide? Oui, une petite météo rapide. À demain, Fissa. Louis Baudin, on vous écoute.
Alors, bon, bah, vraie journée d'automne, hein, avec des averses quasiment partout à un moment ou à un autre. Il y en a déjà en ce moment dans le nord-ouest, le nord-est, il y en a dans le sud-ouest. Il y en a également autour de la région Rhône-Alpes. Ça va être comme ça toute la journée, entrecoupé de quelques éclaircies quand même. Le vent de nord renforcera l'impression de froid. Et puis, il y aura quand même un peu plus de soleil près de la Méditerranée avec l'aide du Mistral et de la Tramontane. Les températures quelques gelées ce matin, parfois accompagné de brouillard à Nevers, à Niort, ouais, une vraie journée d'automne. Et on n'aura pas plus de 8 à 10 degrés cet après-midi dans le nord-est, 10 à 12 degrés dans les autres régions de la moitié nord, 11 à 13 dans le sud et jusqu'à 15-18 degrés quand même près de la Méditerranée.
Merci Louis, dans un instant le journal.
Ils sont là. Il est 8 heures.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
L'État a-t-il abandonné nos centres-villes?
Ce sera l'objet de notre débat à 8h20. Oui. RTL se penche ce matin sur les initiatives pour lutter contre les rues désertes et sans plus aucun commerce. C'est le monument le plus célèbre du monde et le réaménagement de son quartier fait polémique. La Tour Eiffel, sans voiture autour, ce sera l'objet de notre brigade RTL. Le football et Paris qui se contentent d'un nul à Leipzig en Ligue des Champions. Et puis en fin de journal, direction l'imprimerie où seront tirés en 3 jours, 250 000 exemplaires du prix Goncourt.
Dès la fin du journal, le surf de l'info, Cyprien Sini.
Quand un simple mot fait dégénérer les débats à l'Assemblée.
Et à 8h40, la face cachée de la Une avec vous, Alexandre Saint-Aignan.
Les petites briques nostalgiques qui rendent Gaga plongée dans l'univers fascinant des collectionneurs de Lego.
Nos deux rendez-vous sont pris.
RTL Matin.
Des rideaux de magasins baissés, des panneaux à vendre qui se multiplient. RTL s'intéresse ce matin aux centres-villes sinistrés et aux solutions pour y remédier. Exemple, en Eure-et-Loire, à Arroux, 1600 habitants. Et parmi eux, Claude Bellessor, à 66 ans. Il a racheté 3 commerces pour éviter de voir son village mourir, Christian Panvert.
Le retraité a déjà sauvé le café et la boulangerie située place de l'Église. Franck Marchand, le maire d'Arroux, est admiratif.
C'est un petit peu notre bon samaritain, nous, pour la commune.
Claude Bellessor, 66 ans, ne supportait plus de voir les commerces fermer les uns après les autres.
Je venais de céder mon entreprise, j'avais de l'argent que j'avais laissé sur mon compte en banque, j'ai dit ça sera pour des projets futurs, Eh ben, les projets, c'était les projets du café. Donc ça s'est réglé entre l'achat et la mise en service, moins d'un an.
Le café anime désormais le centre-bourg. Charlie, ancien fonctionnaire, devenu patron du Phénix.
C'est une renaissance quoi, pour moi et puis pour l'établissement. Quoi. Une belle aventure. Quoi.
Une nouvelle histoire qui commence à s'écrire avec des clients fidèles, comme Lise.
C'est un lieu qui est très important pour la vie du village. On vient au bar, on rencontre des nouvelles personnes, on discute, on passe de bons moments.
Claude Bellessor vient aussi de racheter les murs du salon de coiffure. Avec la vente de ses locaux, Nathalie Durand pourra enfin concrétiser un autre projet en étant certaine qu'elle aura bien ici un repreneur.
Quand je vais vouloir partir et céder l'entreprise, ça va être beaucoup moins difficile pour un repreneur d'être locataire. Faut que ce salon continue, c'est important.
Le retraité qui sauve les commerces a déjà d'autres projets, comme la création prochaine d'une zone artisanale.
Reportage de Christian Panvert.
Alors peut-on dire que l'État a abandonné nos centres-villes? On posera la question à 8h20 à nos deux invités, le député marcheur de la Creuse Jean-Baptiste Moreau et Michel Fournier qui préside l'Association des maires ruraux de France. Il est 8h03, on en vient à cette plainte déposée par un policier pour violence volontaire aggravée dans le Val-d'Oise.
Avant-hier, il a été roué de coups alors qu'il était hors service, sans son uniforme. Des faits qui se sont déroulés dans un train du département, Julien Fautrin.
Oui, ce policier de 26 ans quitte la gare du Nord à Paris pour rentrer chez lui par les transports en commun, la ligne H du Transilien qui dessert des communes du Val d'Oise. Il est alors habillé en civil, mais reconnu. Des jeunes à la gare de Saint-Leu-la-Forêt font état de sa qualité de policier. Il est fonctionnaire au sein de la brigade des réseaux franciliens, roué de plusieurs coups de poing, puis les agresseurs prennent la fuite. Le policier est conduit à l'hôpital, il a des contusions au visage, il est alors 23h. Plus tard dans la nuit, vers 2h30, à quelques kilomètres de là, à Auvers-sur-Oise, quatre jeunes sont interpellés par les gendarmes pour vol aggravé, placés en garde à vue pour ça. Puis la police fait le rapprochement avec Saint-Leu-la-Forêt. Trois des quatre hommes reconnaissent alors être les auteurs de l'agression du policier un peu plus tôt dans la soirée. Ces jeunes sont ce matin toujours en garde à vue.
Julien Fautra pour RTL.
Une rencontre aujourd'hui entre la France et le Royaume-Uni à propos des licences de pêche.
Rencontre à Paris alors que le bras de fer entre les deux parties se poursuit et des réponses très attendues, notamment à Boulogne-sur-Mer, à la Cap-Écure. Dans ce quartier, 5000 personnes travaillent le poisson français et britannique, Mourad Djabari.
Oui, c'est une fourmilière, un balai incessant de camions, d'ouvriers coiffés d'un bonnet et d'un tablier en plastique, de caisses remplies de poissons et de crustacés britanniques.
Notre volume global ici, c'est 70% de poissons en provenance du Royaume-Uni, donc ça représente quelques milliers de tonnes par an.
Arnaud Deleforge est mareyeur, patron de l'entreprise marine. Chaque matin, il réceptionne dans son entrepôt du saumon, des langoustines, une simple formalité jusqu'ici, mais depuis 10 mois, tout a changé.
On souffre déjà du Brexit, avec des délais qui se sont rallongés de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Si demain on contrôle systématiquement tout ce qui arrive du Royaume-Uni, là on se rajoute 10 heures, 12 heures, 24 heures, voire 48 heures sur certains produits. Là, ça va vraiment devenir problématique.
Le patron qui emploie une centaine de salariés croise les doigts. Des mesures de rétorsion pénaliseraient les Anglais, les Français et tout un marché.
Sur les grosses périodes, comme les fêtes de fin d'année, on va avoir besoin, évidemment, des produits du Royaume-Uni pour pouvoir honorer toutes les commandes et les envies des Français ou même de l'Europe, puisqu'on distribue sur toute l'Europe.
Il n'y aura pas de pénurie, les plateaux de fruits de mer seront bien garnis en fin d'année, mais le prix sera forcément plus élevé.
Mourad Djabari à Boulogne-sur-Mer pour RTL.
Prévenu, rester la première destination touristique du monde, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron pour la France.
Le chef de l'État réunit aujourd'hui une cinquantaine de patrons du secteur pour un sommet. Et parmi les lieux phares de la capitale, la Tour Eiffel, en ce moment au cœur d'une polémique, son quartier doit être réaménagé. Une consultation citoyenne est en cours et l'opposition tacle la municipalité. Et c'est l'objet de notre brigade RTL ce matin avec vous Arnaud Touche, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, en quoi consiste exactement ce projet?
La mairie de Paris veut végétaliser tout le quartier autour de la Tour Eiffel. En gros, elle veut planter des arbres, ajouter 17 000 m² d'espace vert et rendre 35 000 m² d'espace aux piétons. Et rendre de l'espace aux piétons, cela veut dire supprimer les voitures. Car aujourd'hui par exemple, si vous êtes sur l'esplanade du Trocadéro, devant vous, au loin, se dresse le monument et les automobilistes peuvent encore rouler devant la Tour Eiffel. D'ici 2023, ce ne sera plus le cas. Le pont qui traverse la Seine aussi sera végétalisé et seuls pourront passer les bus, les taxis, les vélos et bien entendu les piétons. Ce projet coûte 107 millions d'euros.
Et qui s'y oppose et surtout pourquoi ?
la droite, l'extrême gauche et Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, président du groupe indépendant et progressiste, qui demande un moratoire immédiat.
Ce projet n'est pas une priorité pour Paris. La priorité pour Paris, c'est la propreté des rues, c'est des travaux mieux organisés, c'est d'investir pour nos écoles. Cet argent devrait être utilisé autrement. Et au moment où la ville est endettée, la priorité des dépenses doit aller directement au service des Parisiennes et des Parisiens, pas des grands projets qui, en plus, ne vont pas améliorer les situations.
Et en 2 ans, la facture s'est alourdie de 38 millions d'euros. La faute notamment à l'inflation, selon Emmanuel Grégoire, le premier adjoint qui assume cette dépense nécessaire pour rénover tout un quartier.
Il y a de l'incertitude et pardon de plaider une forme d'indulgence, c'est que la Tour Eiffel est un site suffisamment exceptionnel et complexe pour qu'on s'autorise un peu d'agilité sur ces sujets. Le sujet à la fin, ce sera de savoir si ça a été utilement dépensé, si les gens trouvent ça et beau et agréable et utile.
La mairie de Paris compte répondre aux interrogations des riverains, mais commencera le chantier dès l'année prochaine.
La brigade RTL signée ce matin, Arnaud Touche.
Une pause et dans un instant, bientôt les très chères lentilles. Le prix du paquet devrait doubler. On vous explique tout cela dans un instant. Il est 8h08 sur RTL. Et oui, il est.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal d'Hortense Crépin. Elle compose plusieurs de nos plats les plus cultes. On parle ce matin de nos lentilles.
Mais elles pourraient bientôt coûter plus cher. Le prix du paquet va presque doubler. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour Hortense, bonjour à tous.
Alors comment expliquer cette hausse ?
Eh bien c'est la météo exécrable et humide de l'été qui est responsable. Pourtant les petites gousses qui renferment les précieuses légumineuses s'étaient bien développées à partir du printemps. Mais les pluies de juillet ont tout stoppé. La récolte a été divisée par 5. 5000 tonnes au lieu de 25 000. Pour satisfaire une demande croissante, il a fallu importer des lentilles de l'étranger. Or le Canada, le premier producteur mondial, a lui aussi été victime de la météo. Il y a fait trop chaud et sa production a été divisée par 3. Donc face à une demande mondiale qui reste très forte et une offre en baisse, tout logiquement les prix flambent. Une hausse tellement importante que les producteurs et les distributeurs ne peuvent pas l'absorber. Le prix du paquet va donc pratiquement doubler, 1,80€ au lieu de 1. Les producteurs français espèrent une année 2022 bien meilleure. Ça faisait 45 ans qu'ils n'avaient pas connu une récolte si catastrophique.
Les précisions de Sophie Jousselin pour RTL.
1,80€ pour encore manger des lentilles. En football, la désillusion pour Paris hier en Ligue des Champions.
Le doublé de Jorginho Wijnaldum n'aura pas suffi. Les Parisiens terminent sur un nul de partout à Leipzig alors qu'ils affrontent Manchester United le 24 novembre. Alors le PSG reste bien dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale, mais perd la tête de son groupe Philippe Sanfourche.
Oui, pour un pénalty concédé à la dernière minute, voilà le PSG dépassé par Manchester City et désormais deuxième d'un groupe dans lequel il va falloir batailler jusqu'au bout, à commencer par ce prochain match chez les Citizens dans 3 semaines, sans conteste le plus délicat sur les terres du champion d'Angleterre. Et alors que Paris n'a pas su gagner jusqu'alors ni à Bruges ni à Leipzig, Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, entend procéder par étapes et se recentrer sur l'essentiel.
Le premier objectif, c'est la qualification. Évidemment, c'est préférable de finir premier. On est deuxième pour le moment. On va devoir faire un résultat là-bas pour récupérer la première place, mais le principal reste la qualification.
Le PSG qui aurait toutefois le plus grand intérêt à récupérer cette première place de groupe pour s'éviter le risque de tomber sur un ogre comme le Bayern Munich dès le stade des huitièmes de finale.
Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL, qui vous a fait vivre la rencontre hier soir à Leipzig. Et prochain match, ce sera donc le 24 novembre face à Manchester City.
Absolument, place à la Ligue Europe aujourd'hui.
Lyon accueille le Sparta Prague à 18h45 et Monaco à Eindhoven. À 21h, l'OM affronte la Lazio au Vélodrome. Rencontre à suivre sur W9, toujours à 21h, mais en Ligue Conférence cette fois. Rennes fait face aux Slovènes du NS Mora. Toutes les rencontres à suivre en fil rouge dans les flashs et journaux avec les correspondants de RTL Foot.
Côté tennis, l'heure des huitièmes de finale au Master de Paris-Bercy.
Avec à 14h, Gaël Monfils face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. À 21h, Hugo Gaston qui a renversé hier Pablo Carreño affronte Carlos Alcaraz à suivre en fil rouge sur RTL.
Et maintenant, une vraie curiosité. Hein, direction une imprimerie près d'Alençon où l'on n'a pas fermé l'œil de la nuit.
L'imprimerie Roto de Lonray, c'est là que sont tirés depuis hier des centaines de milliers d'exemplaires de La plus secrète mémoire des hommes, le prix Goncourt remporté par Mohamed Mbougarsar. Et dès l'annonce des résultats, les machines tournent à plein régime, Valentin Boisset.
Oui, c'est un peu l'effervescence pour les 140 salariés. Les machines à café sont d'ailleurs sollicitées car les presses vont tourner jour et nuit.
C'est une vraie fête chez nous. Tout commence à se mettre en action.
Arnaud Barbeau est le chef des rotatives. Dans sa main, des dizaines de bandes rouges sur lesquelles on lit écrit en blanc, prix Goncourt 2021.
Voilà, donc il y a trois presses qui sont sur le cours et qui impriment en même temps pour pouvoir en livrer le maximum le lendemain.
Là, tu roules à combien, là, à quelle vitesse sur un 15 mètres?
Là, actuellement, en production, on sort 4030 exemplaires à l'heure.
Devant nous se trouvent les presses, derrière nous, de la colle blanche et des livres qui défilent sur une chaîne. C'est l'étape d'après, il faut relier.
Là, on est venu encoller le dos du bloc pour poser la couverture.
Cela fait en réalité plusieurs jours que tout est prêt dans l'usine. D'autres productions ont été mises à l'arrêt. C'est la sixième fois qu'un prix Goncourt est imprimé ici.
Maintenant, on est un petit peu rodé. C'est un moment excitant, c'est un moment de joie, c'est un moment de stress. Parce que c'est pas le moment qu'il y ait une machine qui tombe en rade.
Tout au bout, des livres sèches, puis s'entassent.
Là, c'est propre à l'ouverture. Normalement, ça, c'est bon.
En trois jours, 250 000 exemplaires sortiront de cette usine.
Le reportage de Valentin Boisset, impressionnant, et en Normandie pour RTL.
À 9h, nous reviendrons largement sur le prix Goncourt avec Bernard Lehu. Le journal nous a été proposé par Hortense Crépin. Dans un instant, on retrouve Cyprien Sini avec Laurie Fichy à l'Assemblée nationale.
Oui, hein. Bonne ambiance. Oui. Sympathique, convivial.
Voilà, sympathique et amical. À tout de suite.
RTL Matin.
Le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Cyprien Sini, vous êtes avec nous et vous allez surfer avec nos amis de l'Assemblée nationale.
Assemblée nationale, mardi, 18h30, discussion sur le projet de loi de finances. Donc autant vous dire qu'elle n'est pas foule. Mais le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, au micro, est interpellé par l'insoumis Éric Coquerel. Et là, tout va basculer.
Monsieur Coquerel, vous pouvez crier tant que vous voulez, je ne vous entends jamais. Donc continuez, mais vous êtes d'une impolitesse crasse, je vous le dis comme je le pense.
Warning, alerte, mot tabou. Oui, le mot crasse. Alors, crasse dans le Larousse, langage familier, méchanceté, indélicatesse. Et crasse à l'Assemblée, eh ben ça ne se dit pas, car la veille, l'insoumise Mathilde Panot a été sanctionnée.
Les sujets du roi Macron découvraient avec étonnement les dernières crasses de leur monarque.
Madame
Panot. Je dis ce que je veux en fait, non, monsieur le président.
Madame Panot, je suis désolé.
Non, elle ne dit pas ce qu'elle veut, car le mot crasse
était contraire au règlement de l'Assemblée nationale.
Alors Éric Coquerel, quand un ministre lui dit crasse, ça le rend fou, il se lève invective et ça donne ça.
Monsieur Coquerel, s'il vous plaît. Monsieur Coquerel, s'il vous plaît. Le ministre a la parole et lui seul.
Il n'y a jamais
monsieur
eu
Coquerel,
autant
ne m'obligez pas, s'il vous plaît,
à la question de la transition écologique et nous l'assumons
tout à l'heure. Tout le monde parle en même temps, on ne comprend plus rien et même avec son micro fermé, il est tellement énervé qu'il arrive à se faire entendre, Éric Coquerel.
C'est les
très bien, je suspends pour une minute.
Oui, une minute de pause.
Ah oui.
Temps calme.
Petit thé à la menthe, un peu de yoga.
Temps calme obligatoire pour les députés, c'est comme à la maternelle, on se détend, on se mouille la nuque, on se calme avant que ça dérape pour de bon. Et une minute plus tard...
Nous reprenons nos travaux avec un peu plus de sérénité.
Sérénité, oui, bien sûr, c'est ce qu'on va voir. Alors, déjà, le président de séance a du mal à se remettre à l'endroit.
Nous en étions à une minute de temps de parole. Je ne sais pas si vous aviez fini, monsieur le ministre. Vous avez fini.
Oui, complètement largué, il avait fini depuis une heure. Et Éric Coquerel, bah, sérénité, quoi.
Je trouve que vous faites deux poids deux mesures.
Ça va. Oh, je vous remercie bon. Pour ce rappel au règlement. Chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Eh oh, collègue,
finissez
ça va.
Finissez votre rappel au règlement, monsieur
ça
Coquerel.
Ça va maintenant. Eh ben, tu prends la parole si tu
s'il
veux,
vous
ça
plaît,
suffit.
S'il vous plaît.
On a quand même la liberté de s'opposer ici dans cette assemblée. Hein.
Absolument,
et
vous avez la liberté
de
s'opposer.
Et demander un respect de la part du gouvernement. Ça va. Il n'y a pas un mot d'insulte dans ce que je viens de dire. Donc ça suffit.
Sérénité, détente, avec le président qui tente quand même de reprendre le contrôle. Enfin, qui tente, hein.
Non, on peut pas continuer comme
non,
ça.
Non, mais lui, il peut dire ce qu'il veut, ça ne vous gêne pas, monsieur
Monsieur
le président.
Coquerel, maintenant, on va arrêter cet esclandre, maintenant.
Et finalement, bah, c'est le sage de la bande, le député corse, Michel Castellani, qui a pris la parole.
Ah, mais moi, je poserai simplement la question très
calmement. Monsieur Castellani.
Vous savez que nous, en Corse, nous avons horreur de toute forme de violence. Nous sommes jusqu'au bout des pacifistes.
On a tout entendu. Pacifiste, manquait plus qu'un petit verre de myrte hein, pour calmer
oui,
tout
c'est
le monde.
Ça.
Allez, en tout cas, même pour un projet de loi de finances dans une salle aux trois quarts vide, bah, il se passe toujours quelque chose à l'Assemblée nationale.
Ça, c'est sûr. Il est 8h19.
Ah oui, là.
Je crois que ça suffit pour la méditation et les chants corse, si vous êtes bien d'accord. On se retrouve ce soir.
18h40, 19h, on défait le
avec
monde.
Avec plaisir, Cyprien Sini. Merci
soir.
Beaucoup.
Yves Calvi,
RTL Matin.
Suite de notre matinale spéciale consacrée à nos centres-villes délaissés, ces cœurs de ville qui se vident de leurs commerces et parfois même de leurs habitants. Tout au long de la matinée, nous vous en avons exposé les situations avec des pistes pour redynamiser nos villes en région. Et nous allons maintenant en débattre avec nos invités. Bonjour Jean-Baptiste Moreau.
Bonjour.
Vous êtes député de La République En Marche de la Creuse, porte-parole du parti présidentiel. Et nous sommes au téléphone avec Michel Fournier, qui lui est président de l'Association des maires ruraux de France. Merci beaucoup d'être avec nous, Michel Fournier. Je vous pose directement la question à l'un et à l'autre. Est-ce que l'État a effectivement abandonner nos centres-villes, nos territoires. Jean-Baptiste Moreau.
Je dirais qu'il l'a abandonné sans doute pendant pas mal d'années. Je pense que ces dernières années, pas forcément que depuis 2017, mais je pense qu'il y a une prise de conscience et il y a aussi des choses qui s'inversent. L'Association des maires ruraux de France a fait un certain nombre de propositions récemment qui ont été reprises pour partie dans l'agenda rural. Et je voudrais avoir une pensée pour le prédécesseur de M. Fournier qui s'appelait Vanik Barbarian, qui était un ami et qui avait poussé un certain nombre d'idées sur la redynamisation des centres-bourgs. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été faites depuis 2017. On a fait l'action cœur de ville, par exemple, avec 5 milliards sur 5 ans, pour redynamiser justement les cœurs de ville de la ruralité. Il y a l'action Petite Ville de Demain, par exemple, aussi, qui a été lancée par Jacques Ngourou récemment, pour aussi remettre des moyens et redynamiser des centres-bourgs de villes de moins de 20 000 habitants. En Creuse, par exemple, il y a 22 communes qui ont été sélectionnées, elles se sont mises ensemble à 20, parce que ce qui manque, c'est pas des projets, les élus locaux, ils ont ces projets, les maires de ces communes et de ces villes, ils ont des idées à pousser et à porter. Ce qui manque, c'est de l'ingénierie. C'est-à-dire, c'est d'avoir des gens qui montent ce projet, qui le financent et qui le poussent jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et la mutualisation peut permettre ce recrutement d'ingénierie de projet qui manque tant dans nos territoires ruraux aujourd'hui.
Michel Fournier, vous êtes par ailleurs vous maire de Voivre, hein, dans les Vosges. Je crois que c'est 400 habitants dans votre ville, aux alentours. Décrivez-nous un peu la situation de votre ville. On se doute que ce n'est pas les Champs-Élysées, mais avez-vous assisté à une fermeture de commerce et à une raréfaction des services publics?
Oui, alors c'est pas une ville, c'est un village. Bonjour. Et je voudrais quand même souligner le fait que il y a une différence entre Petite Ville de Demain, Cœur de Ville et les villages. Parce que les villages, le tissu commercial est quand même beaucoup plus faible et souvent c'est à l'unité. Donc ce que nous souhaitons, nous, au niveau des maires ruraux, c'est que il y a la déclinaison Cœur de Ville, il y a la déclinaison Petite Ville de Demain, mais qu'il y ait la déclinaison également Village d'Avenir. Parce qu'il y a aussi des potentialités pour réintroduire des services privés tels que le commerce de proximité, des tiers-lieux, des bistrots, bien entendu, puisqu'on sait qu'il y a une opération. Voilà,
Michel Fournier, pardon, je me permets de vous interrompre. Vous savez, toutes ces intitulés que vous nous donnez l'un et l'autre, ils ont une forme de slogan et on les comprend, c'est fait pour ça. Hein, mais est-ce que vous, dans votre ville, vous êtes senti d'une quelconque façon abandonné ?
Ah mais on est abandonné depuis pas mal d'années. Hein. Il faut quand même reconnaître une chose, c'est que l'aménagement du territoire tel qu'il est souhaité aujourd'hui, eh bien c'est un combat que l'on a mené, nous les maires ruraux, et ça a été souligné par Vanik Berberian, notre ancien président. L'agenda rural est fait pour ça, est fait pour retrouver en fait... j'allais dire un dynamisme qui peut exister parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans ces villages et qui apportent encore une fois des services à la population, mais pour cela, il faut être accompagné, ça a été souligné tout à l'heure par le député.
Jean-Baptiste Moreau, est-ce que le président de la Startup Nation n'a pas oublié les villages de son pays ?
Non, pas du tout. On parle d'actions concrètes. Il y a l'opération 1000 cafés, par exemple, qui a été lancée par le groupe SOS pour rouvrir les cafés dans les villages. Mais rouvrir un café dans un village, c'est pas juste rouvrir un café. Oui. C'est aussi, c'est un accompagnement et ça permet aussi d'avoir un multiservice, d'avoir de la vente de journaux, de la vente de tabac et de recréer la vie dans des villages justement de petite taille. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées par cette majorité, par le président de la République.
Ça marche, ce que vous venez nous décrire,
oui, ça fonctionne.
C'est de la com.
1000 cafés, c'est plus de 1000 communes qui ont candidaté. 1000
cafés, je serais toujours pour.
Voilà.
Hein,
oui, c'est la réouverture du premier commerce, premier commerce qui a disparu dans le village. Donc, il y a plus de 1000 communes qui ont rouvert des commerces suite à ça. Et moi, je suis particulièrement bien placé pour en parler, puisque j'ai été élu conseiller municipal derrière une maire de 35 ans en Creuse. Et on est en train de rouvrir le café du village qui a fermé il y a 3 ans et qui crée un lieu de vie dans le village. Et c'est important parce que pendant le Covid, on a vu revenir des populations. On a eu un boom immobilier, nous, en Creuse. Hein, ça, oui. C'est très net. Hein, il y en a vendu beaucoup de maisons en Creuse. Maintenant, si on veut garder ces gens-là et que ce soit pas juste une résidence secondaire, il faut créer de l'activité, il faut créer de l'emploi, il faut créer de la vie culturelle et collective dans les villages. Et c'est tout l'objet des différentes opérations qu'on a pu mener et aussi du plan de relance pour créer de l'emploi dans notre ruralité.
Dites-moi, il y a
des problèmes de mobilité, des millions de Français sont très mal connectés au sein des territoires. Dans la Creuse, ça va ?
Ça va mieux. C'est pas formidable, mais il y a un certain nombre de choses qui ont été menées, notamment à l'époque par Julien de Normandie, sur la mutualisation des pylônes. Donc on a beaucoup progressé sur la couverture des mobiles, beaucoup progressé sur la couverture 4G. Le fibrage, nous en Creuse par exemple, on a eu un plan particulier. Ce qu'on a essayé, c'est de faire des contrats de territoire, et avec des initiatives qui viennent des territoires, qui viennent des élus des territoires. C'est pas Paris qui impose un plan uniforme pour tout le monde, mais nous, le plan particulier pour la Creuse, c'était les élus et les acteurs économiques du territoire qui avaient des projets, qui proposaient ces projets, et l'État se mettait en mesure de financer ces projets. Et donc, là-dessus, on a mené à bien un certain nombre de projets. On a 80 millions d'euros pour 118 projets qui sont en cours de réalisation. Mais c'est l'aménagement du territoire, on le conçoit davantage comme les acteurs du territoire, c'est eux qui savent le mieux ce qu'il faut faire pour leur territoire, et c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Michel Fournier, qu'est-ce qui vous manque ?
Oui, sauf qu'il faut quand même quelques moyens, parce que tout cela est bien gentil, mais la couverture mobile, puisque vous venez d'évoquer la couverture mobile, aujourd'hui, elle est peut-être moins bonne qu'il y a encore un ou deux ans, parce que les opérateurs diminuent l'intensité, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations qui ne sont pas tout à fait celles qui viennent d'être décrites. Et puis en ce qui concerne l'opération...
On a implanté 17 pylônes en Creuse.
Ah ben, peut-être, mais en ce qui concerne l'opération, moi je le vis aussi au quotidien, en ce qui concerne l'opération 1000 cafés, effectivement c'est une bonne, belle opération, mais j'ai été commerçant moi toute ma vie, donc je sais aussi qu'il faut après pouvoir en vivre, et il n'y a pas forcément la possibilité aujourd'hui, s'il n'y a pas un accompagnement réel, de pouvoir faire en sorte la pérennité de ces commerces. Il faut aujourd'hui, il y en a combien ? Je crois qu'il y en a une centaine qui ont été réalisées, même s'il y a 1000 demandes. Donc ça, c'est une très belle opération, mais elle n'est encore pas finalisée, elle n'est pas aboutie. Je dis simplement une chose, ce gouvernement a pris en conscience du fait que la ruralité, 30% de la population, avait une dynamique à proposer, et il faut qu'elle soit encore mieux accompagnée. Et ce n'est pas seulement un slogan « Village d'avenir ». Je peux vous dire une chose, c'est l'envie des gens du terrain de démontrer que chez nous, il y a de l'activité, de l'innovation, et qu'il faut que pour cela, il faut effectivement un regard particulier. Ça fera partie de la campagne présidentielle, je peux vous le dire.
En tout cas, votre énergie à en parler fait du bien, Michel Fournier. Jean-Baptiste Moreau, un dernier mot.
Non, mais clairement, la crise Covid a amplifié ce désir de revenir à la campagne, de revenir vivre dans la ruralité. Mais il faut effectivement qu'on propose un certain nombre de services. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'accompagnement des collectivités, je ne vais pas revenir sur les dotations, mais globalement, elles ont assez peu bougé depuis 2017. C'est-à-dire qu'elles ont arrêté de diminuer. Alors, je sais, ce n'est pas parfait. On préférerait qu'elles augmentent. Mais aujourd'hui, les collectivités, effectivement, elles doivent servir de fer de lance et de redynamiser ces villages et ces petites villes, parce que aujourd'hui on a des nouvelles populations qui arrivent, qui demandent un certain nombre de choses, et il faut qu'on les stabilise, on va dire, et qu'on arrête cet exode même au niveau environnemental. Je veux dire, la concentration dans les villes, aujourd'hui on voit bien qu'on arrive au terme d'une logique, et aujourd'hui il y a une envie de campagne, mais maintenant c'est à nous, les acteurs du territoire, de transformer cette envie en envie de rester à la campagne et d'y vivre.
Aujourd'hui il y a une envie de campagne, on va se séparer sur cette dernière notion. Merci Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse et porte-parole du parti La République En Marche, et merci à Michel Fournier qui lui est président de l'association des maires ruraux de France. Dans un instant, on va passer à notre météo à 7 jours avec Louis Bonnard. Alors ça, je peux vous dire que dans les villages, on nous écoute, hein, parce que la météo, c'est très important. A tout de suite, Louis.
En magasin.
RTL Matin.
8h32, Louis Bodin, veuillez procéder s'il vous plaît à notre météo cette journée.
Oui, avec en fin de semaine, ou en tout cas pour ces prochains jours, le retour d'un temps sec. Manifestement, on hésitait un peu dans les prévisions. L'anticyclone revient. Moi, j'avais un peu de doute et finalement, il va s'installer. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les quelques averses qu'on a encore aujourd'hui vont de jour en jour s'atténuer. Demain, il en restera encore un petit peu, surtout près des reliefs, mais elles seront de plus en plus rares. Donc, on va retrouver du temps sec. Mais attention quand même, anticyclone à cette époque de l'année, ça ne veut pas dire soleil. Bien au contraire, l'anticyclone, il a tendance à bloquer l'humidité dans les basses couches. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des brouillards, des nuages bas, ça se lève un peu l'après-midi, mais pas sûr du tout. Donc, il n'y a pas de pluie, mais ça peut rester gris quand même, notamment dans la moitié nord, dans le sud. Là, en revanche, ça se lèvera. Il y aura probablement quelques brouillards le matin et puis ensuite du soleil. À coup sûr, près de la Méditerranée, avec toujours un peu de mistral et de tramontane, parce qu'au début, on aura toujours le petit courant de nord. Mm-hmm. Donc ça va nous accompagner pour demain, encore samedi. Dimanche, même grisaille, plus de soleil dans le sud, donc plus de précipitations. Alors les températures basses. Le matin, pas très loin des gelées. Dès que le ciel sera un peu étoilé la nuit, ça gèlera le matin. Et puis l'après-midi, on sera aux alentours de 10-12 degrés, pas plus dans la moitié nord. Et puis dans le sud, on frôlera les 15 degrés, voire un peu plus près de la Méditerranée. Et bien ce type de temps, je peux le reconduire en début de semaine prochaine. Ouais, l'anticyclone a l'air de rester là. Donc des nuages bas, des brouillards le matin, quelques gelées, des températures un petit peu plus agréables l'après-midi, peut-être quelques éclaircies. Puis plus on avancera dans la semaine, plus ces éclaircies devraient être assez belles l'après-midi.
Bon, bah c'est grisou pour commencer, mais du coup, on stoppe un peu la pluie, vous voyez.
Ouais,
c'est
bien voilà, ça. On arrête la pluie à donc partir du week-end. Exactement.
On arrête la pluie, on le prend comme ça, et ça nous fait du bien. Il est 8h33, merci Jérémy.
RTL autour du monde.
Le Royaume-Uni est le leader mondial de l'éolien offshore. Entre atout naturel et investissement, Londres a multiplié ses capacités ces 20 dernières années. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Boris Johnson a dit il y a quelques mois qu'il voulait être l'Arabie Saoudite de l'éolien. Belle formule.
Oui, alors c'est vrai que la formule est un petit peu fantasque, oui. Mais ça n'est pas de l'esbrouf. Hein. Boris Johnson bénéficie vraiment d'une série d'investissements qui ont été commencés dès 2002. Et rien que ces 10 dernières années, la capacité énergétique de l'éolien en mer a été multipliée par plus de 8 pour atteindre environ 12 gigawatts. Alors si Londres a tellement misé sur l'éolien offshore, c'est parce qu'il a la ressource idéale. Alors non, c'est pas le vent. Enfin pas seulement, selon Simon Hogg, professeur à l'université de Durham.
Notre avantage, c'est la mer du Nord. Elle fait moins de 50 mètres de profondeur quasiment partout. Et ça nous permet de planter les turbines directement dans les fonds marins. Ça nous donne un vrai avantage.
C'est passionnant. Le gouvernement britannique veut même aller plus loin. Son but, c'est 40 gigawatts offshore d'ici 2030.
Oui, et c'est presque triplé la capacité actuelle, mais ça n'est pas impossible, hein, sachant que les turbines sont de plus en plus hautes et donc de plus en plus efficaces. Oui. Mais Londres se prépare aussi à développer sérieusement les éoliennes flottantes.
Alors là, on ne parle que de l'éolien en mer, mais il y en a aussi sur Terre.
Oui, et l'éolien onshore génère la même capacité qu'offshore, mais certains pays sont plus venteux que le Royaume-Uni, c'est vrai. Alors malgré tout, plus on monte vers le nord de l'Angleterre, plus on voit de fermes éoliennes comme celle de Moorhouse dans le comté de Durham. Louis Stokes est le manager du site.
Ici, nous avons 6 turbines de 120 mètres au pic de l'hélice qui génèrent chacune 2 mégawatts. Annuellement, cette ferme génère assez d'énergie pour fournir 10 000 foyers. Ce qui équivaut à une économie de CO2 de 12 000 tonnes. C'est l'équivalent de retirer 5 200 voitures de la circulation chaque année.
Alors cette ferme éolienne se trouve au milieu de vastes prairies, oui. Ce qui ne plaît pas toujours à l'opinion publique bien sûr, et c'est pour ça que le gouvernement mise énormément plus sur l'éolien en mer.
Merci beaucoup Marie Billon. Dans un instant, Alexandre de Saint-Aignan et la face cachée de la Une. Qu'est-ce qu'on a au programme ce matin?
Vous aimez les Lego?
Oui.
Vous en avez déjà acheté?
Oui.
Bah, vous risquez d'avoir envie d'en acheter encore plus.
Bah, à tout de suite.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Mais oui, avec Alexandre de Saint-Aignan à 8h38. Ce matin dans Society, le succès fou des Lego pour adultes qui coûtent souvent plus d'une brique.
Des jouets qui trônent parfois étrangement dans les bureaux des plus grands de ce monde. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, expose fièrement son Faucon Millennium, réplique de la saga Star Wars quand Donald Trump lui possédait une réplique de la Maison Blanche en Lego dans le bureau ovale. Pas de doute, les briques conçues au Danemark ne sont plus seulement réservées aux chambres d'enfants. Tenez par exemple Jean-Michel, la quarantaine, conseiller en patrimoine. Il a craqué pour la première fois en 2007. Il se retrouve aujourd'hui avec une collection qui vaut autour de 60 000 euros. Un grand enfant parmi d'autres, hein, qui sont longtemps passés sous les radars de la marque. Les adultes représentent désormais 20% des ventes pour Lego. Un bon client est un adulte qui passe deux fois à la caisse, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour lui-même. Christian, 48 ans, n'a pas d'enfant, mais il dépense pour deux. Dans l'ancien corps de ferme où il habite, il a réservé 60 mètres carrés pour sa Lego Room, comme il l'appelle. Au milieu des poutres en bois, toute une armée issue de l'univers Star Wars, un bataillon de fusées ou encore un monorail. Nicolas, 48 ans également, a lui décidé de louer un box spécialement pour rassembler ses Lego. Il faut dire que cet ancien claquettiste professionnel habite en région parisienne et il n'a pas réussi encore à imposer la présence de ses jouets dans le 30 mètres carrés qu'il partage avec son compagnon. Par ailleurs, il est passionné d'art, de théâtre et de méditation zen et c'est justement quand il assemble les petites briques qu'il arrive à trouver la plénitude. S'ils pensaient tous au départ être les seuls givrés à collecter collectionner des Lego à leur âge. Ils se sont rapidement rendus compte que le virus circule aussi et de plus en plus dans leur entourage. Sans doute une question de génération, des grands-enfants qui veulent rattraper le temps perdu. Le philosophe Tommaso Bertolotti a consacré un ouvrage à ce phénomène, l'égosophie. Selon lui, si on propose à un adolescent de choisir entre un iPhone ou le set du Faucon Millenium en Lego, il choisira le smartphone. Mais pour un adulte, ce sera l'inverse. La rançon de la gloire, c'est une flambée des prix, évidemment, surtout que la marque danoise cultive la rareté. Pas question de rééditer des anciens sets. Les pièces les plus rares s'échangent sur le marché de l'occasion, parfois en milliers d'euros, 1500 par exemple pour la simple figurine, une toute petite figurine de Batman Zebra, même 2000 euros pour Mr. Gold, pas plus grand, un petit personnage sorti en 2013, il était à l'époque vendu 4 euros. Une économiste russe a d'ailleurs fait une étude sur le sujet, elle affirme que les Lego sont un meilleur investissement que l'or, les briques ont pris 10% en moyenne par an depuis 1987, on trouve même sur YouTube des vidéos conseils pour apprendre à investir dans le Lego. Son auteur revendique un porte feuilles Lego qui s'approchent rapidement d'une valeur à 6 chiffres, des montants qui donnent le tournis et qui suscitent forcément la convoitise. En mars dernier, tenez-vous bien, la gendarmerie d'Orgeval dans les Yvelines annonce avoir interpellé 3 Polonais. Ils écumaient l'Europe pour voler des sets de Lego neufs dans les entrepôts et les revendre ensuite sous le manteau. On compte également un cambriolage. Louis, 23 ans, a découvert sa maison vidée en rentrant chez lui. Plus aucune trace des 30 000 pièces qu'il avait collectionnées. Estimation 16 000 euros. Des détail cocasse, le ou les cambrioleurs n'ont pas touché à l'ordinateur, à la télé, une montre de valeur ou même l'argent liquide qui avait été laissé sur la table. En septembre dernier, Lego annonçait un bénéfice net en hausse de 140% sur les 6 premiers mois de l'année. Le créateur de la marque serait aujourd'hui l'homme le plus riche du Danemark et c'est parti pour durer alors que la communauté de fans réclamait depuis longtemps un set du Titanic.
Ah bah oui.
Lego va sortir bientôt une reproduction record du paquebot, 1,30 m de long, quasiment 10 000 pièces. Tarif affiché pour du 9,630 euros à condition évidemment de mettre la main dessus. La folie des Lego pour adultes, c'est un article édifiant à découvrir dans le magazine Society.
Et je retiens cette notion, les adultes représentent désormais 20% des ventes pour Lego.
Exactement.
Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan.
À demain.
Vous êtes comme ça.
Direction le Gard ce matin avec l'association Le Passe-Muraille, l'a bien nommée. Car depuis 23 ans, cette association permet à des personnes en grave difficulté de traverser littéralement les murs de la misère et du chômage. Le Passe-Muraille conduit des chantiers d'insertion professionnelle dans le Gard, mais aussi dans l'Hérault, en restaurant les vieilles bâtisses. Bonjour Patrick Légéraud.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Patrick, vous avez constaté qu'en valorisant le patrimoine, ce sont les salariés du Passe-Muraille qui reprennent en fait confiance en eux.
Oui, c'est un côté paradoxal. En réparant des murs, en les embellissant, ces salariés voient loin au-dessus et se projettent. Ils font des projets d'avenir. Pourtant, au départ, c'est pas gagné. Les travaux sont confiés à des groupes de 9 personnes venues du chômage, de longue durée, du RSA ou de la prison. Nour Abdelmounaoui est le coordonnateur des actions d'association sur le territoire du Gard rhodanien.
Ils ont tous des difficultés, des problématiques, que ce soit sociales, personnelles, familiales. On ne demande pas que ce soit des professionnels, mais qui viennent avec de la motivation, qui respectent un cadre de travail.
Qu'on puisse compter sur eux.
Exactement, qui reprennent le rythme, en fait, de se réveiller le matin, de pouvoir travailler en équipe et de réussir quelque chose.
Vincent Martinez est l'encadrant technique. Lui-même est passé à travers la muraille il y a 6 ans en travaillant sur un chantier d'insertion de l'association. Vincent n'est pas là que pour apprendre à tenir une truelle.
Oui, c'est des oiseaux blessés, hein. c'est des personnes qui arrivent un peu de tout, il y a tout âge, hein. C'est mélangé, c'est mix aussi. La plupart du temps, ils n'ont pas travaillé depuis 2-3 ans.
Vous apportez aussi votre vécu, votre sagesse à ces gens-là.
Exactement. Beaucoup de bienveillance, de pédagogie, c'est ce qu'il faut. Hein. Il y a des doucements, quoi. C'est assez énergivore, si vous voulez, un peu comme travail. Hein. C'est prendre un peu la misère, ça fait un peu effet éponge, hein, un peu la misère des autres. Mais bon, ça, c'est ce que j'aime, le côté humain. Je leur donne la motivation, je les valorise. C'est très important pour des gens comme ça, parce que souvent, ils se sous-estiment. Maintenant, je sais pourquoi je fais ça, j'en suis fier. En fait, si vous voulez, moi, ici, il y a le chantier, et à côté, il y a le projet. Bien sûr, pour moi, le plus important, c'est le projet. C'est qu'ils sortent en positif, c'est le but. Et ça marche.
La preuve avec Eugénie, cabossée par la vie au RSA depuis un an, elle a du mal à retenir ses larmes quand elle pense à ce qui l'a conduite ici.
Ça a été très très dur, oui. Ouais. Très très dur. Là, je m'en suis sortie, c'est bien. Ça m'a permis de reprendre le chemin du travail, pouvoir m'acheter une voiture. Là, j'ai fait de la maçonnerie, un peu d'espace vert quand j'ai commencé, oui.
Et pour le moral, c'est bon?
Oui, ça booste le moral, oui. Ouais. De ne pas être seul, quoi, d'être accompagné, oui, ça aide.
Eugénie va entamer un stage dans un grand magasin de sport, elle sera vendeuse. Pour Marc, la trentaine, l'alcool et la solitude l'ont plongé dans la galère depuis l'adolescence. Le chantier, c'est pour lui comme donner un grand coup de pied au fond de la piscine, juste avant de se noyer.
Le matin, tu te réveilles, maintenant, il n'y a même plus besoin du réveil, quoi. Voilà, direct, on reprend le pli, quoi. Moral, ça fait du bien. On voit les collègues, le travail, on se sent utile. On est encadré, on est très bien encadré. Ils nous testent sur l'école, les difficultés si on ne sait pas lire, par exemple, il y a des gars qui ne savent pas lire. Puis bon, après, il faut s'y tenir, il faut donner du sien aussi. Parce que eux, ils nous mettent le pied à l'étrier. Après, voilà, quoi, il faut pas lâcher l'affaire.
Les contrats sont de 26 heures par semaine sur le chantier, plus 4 heures de formation et de suivi du projet de chacun. Après 6 semaines de travail, l'équipe de Vincent vient de finir de restaurer une grange à Saint-Paul-les-Fonds, qui va devenir l'atelier municipal du village.
On a tout décroté et on a gardé une côté pierre qu'on a retrouvée. Et ensuite, on a refait tous les escaliers qui étaient assez abîmés et rejointage. Et donc là, c'est vraiment une belle pièce. Voilà le résultat. Moi, je suis content parce que, en plus, moi, mon but, c'est qu'ils soient autonomes. Je les valorise, bien sûr. Ils sont contents, je suis content. Donc, tout va bien.
Voilà, mission accomplie une fois de plus. Reste aux passeurs de murailles à tenter de réussir leur vie désormais.
Merci beaucoup, Patrick Tégéraud. Dans un instant, Laurent Gérard et toute son équipe.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi et bonjour à tous et à toutes. François Hollande est en pleine tournée promotionnelle de son livre « Affronter » paru la semaine dernière. Bonjour François Hollande.
Salut Poupée. Je sens que le Hollande Tour, ça t'émoustille. T'es pas loin du collapse.
N'exagérons rien, oui. François. Mais c'est vrai qu'on vous voit un peu partout en dédicace en fait.
Des étoiles dans les yeux, la môme. Normal, ma tournée, c'est mieux que les Rolling Stones. Un jour, Lidl de Montluçon, un autre à l'Intermarché de Maubeuge. Je suis le produit le plus demandé en supermarché après les boîtes de choucroute Saupiquet. On m'appelle la tête de gondole dans le milieu.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit encore?
C'est énervant, ce machin.
Ah,
là.
Bah, yeah, bah, oui.
C'est mon bracelet électronique. Il est joli depuis que j'ai fait sortir les diamants, mais à chaque fois que je passe sous un portique, il se met à sonner. Et faire encore plus mal aux oreilles que ma Carlita quand elle gratouille sur sa guitare.
Bonjour Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous faites là, en fait?
J'étais dans le coin, en promenade.
Oui.
Promenade, 29 euros, en vente dans toutes les bonnes librairies. Et quoi que j'entends? Le petit gros qui vient vendre sa camelote? Non! Ce n'est pas de la camelote, de la grande littérature. La preuve, on s'est bousculé pour l'acheter au Leclerc de Lons-le-Saunier. Mais François, sois sérieux. Ton truc là, c'est pas une tournée d'écrivain, c'est une tournée d'épicier. Si ça continue, tu vas vendre tes bouquins dans une camionnette Vivagel, bien sûr.
Vous aussi, Nicolas Sarkozy, vous êtes en tournée promotionnelle.
Oui. Vous voulez que je vous dise à quoi que ça ressemble?
Oui.
La tournée d'un grand écrivain comme moi,
oui.
Qui a lu tous les livres qu'il a écrits.
Oh bah, bravo.
Je vais vous le dire. La librairie Au fil des pages à Bordeaux. La librairie L'encre et la plume à Lyon.
Oui.
La librairie Mots et merveilles à Paris.
Oui.
C'est quand même autre chose. Non, c'est plus sexy. L'électrice me demande de leur faire une dédicace à même la peau. On m'appelle le tatoueur des zones commerciales. C'est ça, c'est pareil, Claudio. Il y a une dame qui t'a demandé où se trouvait le rayon charcuterie. Alors que moi, je suis au milieu des grands écrivains. Jean-Claude Camus. Faubourg Saint-Honoré de Balzac. Marguerite Duracell.
Ah non, ne vous disputez pas, messieurs. Si
n'empêche que mon livre, il fait 288 pages. Et le mien, il en fait 300. Et ben voilà, c'est moi qui ai le plus gros.
Oh, on va vous laisser à votre concours de livres.
Voilà.
Très remonté contre la création d'un lotissement dans sa commune de Velleron dans le Vaucluse, le slameur Grand Corps Malade vient de rejoindre le comité de lutte contre ce projet. Bonjour Grand Corps.
Bonjour à toi, Mademoiselle Jade. Toi aussi, rejoins ma croisade. Avec moi, faut lancer l'appel pour arrêter les tractopelles.
Ah, je viens lancer un appel, mais qu'est-ce qui se passe exactement chez vous à Velleron, Grand Corps?
Dans mon village, près de ma maison, ils veulent construire des pavillons. Un promoteur, un homme d'argent, va installer un lotissement. 200 logements avec garage. Rien d'y penser, ça fout la rage.
Oui.
Moi, j'en veux pas, j'ai pas besoin. Des barbecues, des nains de jardin.
Ah oui, on voit mieux le problème. Et vous avez donc choisi de vous lancer dans ce combat. Vous avez toujours été un citoyen engagé, Grand Corps.
Oui. Depuis toujours, je prends position. Contre le mal, je dis attention. Je prête ma voix aux opprimés. Je fais pas de manière comme Stromae. J'écris aux jeunes, aux femmes, aux flics. Faut voir ça, comment je m'applique. Je compose mes vers, mes suppliques, sur mon bon tant pis en plastique.
C'est vrai que vous avez une patte reconnaissable entre mille. Oui. Ah ben oui. Et pour la future présidentielle aussi, vous comptez vous engager ?
La République, c'est comme notre mère. Si on vote pas, elle est vénère. Pas de bulletin blanc, pas d'abstention. Ça fait le jeu de l'opposition. Il faut choisir, c'est un dilemme. Mais pas faire monter les extrêmes. Le Pen-Macron ou bien Zemmour, ça va cogner, il y aura du lourd. Malheureusement, il n'y a plus Bayrou. Ça nous aurait fait rire un coup.
Merci encore. Oh oui. Et comme d'habitude, bonne convalescence. Dans son livre Le véritable Yves Montand, Emmanuel Bonini évoque la relation amoureuse d'Yves Montand avec le chanteur Redaker pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Benjamin Castaldi.
Ah non, mais bonjour, mais ça va pas du tout cette histoire. Hein.
Pourquoi vous acceptez mal l'homosexualité de votre grand-père, c'est ça?
Non, mais ça, je m'en fous, c'est comme disait ma mamie cocu, pour ton grand-père, homme, femme, gruyère, du moment qu'il y a un trou, ça fait l'affaire.
Oh non, non, non,
non. Mais c'est un mythe quand même.
C'est pas possible.
Ah non, mais c'est la réalité. Hein. Non, ce qui m'embête, c'est qu'Emmanuel Bonini, il va me piquer mon créneau des livres sur mon papy Quetta.
Ben oui, c'est sûr, mais en quoi est-ce embêtant en fait?
Bah, vu que mes livres ils se vendaient bien, j'ai rompu mon contrat avec Comme J'aime, du coup j'ai repris 25 kilos. Et si à cause d'Emmanuel Bonini je vois moins de livres sur mon papy Quetta, oui, je vais devoir refaire de la pub et me remettre au régime.
Ah bah voilà. Ça vous arrange pas?
Bah non, parce que quand on grossit aussi des pieds.
Hein, c'est très bien, quand même.
Ouais, aujourd'hui mes orteils, on dirait des tacky balls. Résultat, j'ai cassé ma perche à selfie en l'utilisant comme chausse-pied.
Aïe, 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 mais vous vivez des aventures.
Oui, j'ai pas du tout envie de me mettre au régime parce que là, on rentre dans la saison de la raclette et moi j'adore ça, la raclette. J'adore ça avec des patates puis avec une bonne pizza aux frites.
Il existe peut-être une recette de raclette de régime. Mm-hmm.
Ah, bah oui, c'est pas bête. Bon, bah je vous laisse, je vais poser la question à Cyril Lignac.
Voilà.
Bonjour
Pascal.
Bonjour Pascal Pro.
Calou.
Quelle question allez-vous poser à 13h dans les auditeurs à la parole?
Oui. Eh bien, nous parlerons du mois sans tabac. Comment Emmanuel Macron va-t-il faire pour continuer à nous enfumer? Éric Zemmour va-t-il pouvoir continuer à être sans filtre? Va-t-il profiter du mois sans tabac pour demander à ce qu'on expulse toutes les gitanes et tous les camels? Je pose la question au 3210.
Eh bien, alors quoi d'autre?
Nous parlerons également des illuminations de Noël qui s'installent dans nos villes, et notamment à Paris. Faut-il décorer la mairie de Paris en sachant qu'elle est déjà occupée par une illuminée qui paradoxalement n'est pas une lumière? Les Parisiens ont-ils des boules?
Eh bien, merci Pascal.
Oui. Pas si vite. C'est aussi, on l'a appris cette semaine, la fin des terrasses éphémères sur les trottoirs de Paris.
Ah.
Les rats d'Anne Hidalgo vont-ils enfin pouvoir retourner à leur espace naturel? Mais du coup, vont-ils se faire écraser par des trottinettes d'Anne Hidalgo, grande dame des antispécistes d'Anne Hidalgo?
Je pose la question. Oui. Merci Pascal.
Mais j'ai toujours pas fini. On va finir en beauté.
Oui.
Nous parlerons également du journal islamo-gauchiste Libération, qui, Libé pour les intimes, qui a titré cette semaine sur la PMA. PMA en manque de sperme. Est-ce qu'on s'en branle? J'attends vos dons au 3210.
C'est sûr, on attend tout au 3210.
Alors merci à tous. Vaut mieux. Hein.
Voilà. C'est dans ce climat de sérénité absolue que nous allons nous séparer. Et je vous dis donc à demain.
À demain.
À demain. Dans un instant, merci encore à toute l'équipe. On va retrouver Cyril Lignac. Et comme nous accueillons Valérie Le Mercier pour son merveilleux film Aline, film hommage à Céline Dion, eh bien, va nous donner une recette de poutine. Quelle bonne idée. Alors, je vous avoue que ça ne m'a jamais vraiment tenté, la poutine, mais peut-être qu'il va y arriver, Cyril. Il est capable de tout.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour cher Cyril Lignac.
Bonjour.
Vous profitez de l'invitation de Valérie Le Mercier, qui est notre invitée, pour vous présenter Aline, son film hommage à Céline Dion. Et on vous présente le film dans quelques instants. Ça c'est promis, le rendez-vous est pris. Mais avant Cyril, vous aviez envie de partager avec nous une recette typique du Canada, la fameuse poutine.
Ah, la fameuse poutine. Oui. Alors déjà, qui aime ça?
Ben pas moi. Hein. Enfin, pardonnez-moi, ça ne me tente pas pour dire la vérité. Mais vous nous rappelez ce que c'est déjà?
Alors la poutine, c'est un plat typiquement... québécois, et donc du coup on mange des frites, oui, avec du fromage,
oui,
et une sauce qu'on appelle une sauce brune en, oui, fait. Donc c'est un mélange quand même assez particulier parce que on a tout dans ce plat. On a les frites un peu grasses,
voilà,
on a le fromage fondu dessus,
bah,
et pour couronner le tout, on y va avec du bouillon de bœuf du sucre, de la moutarde, un petit peu de jus de citron.
C'est ça.
Donc la sauce, elle est très simple.
Oui.
Ils sont pas embêtés, hein.
Non.
Ils ont pris une casserole, ils ont mis du bouillon de bœuf, un jus de citron, de la moutarde. Et comme on aime bien un peu sucré, et on a rajouté un peu de cassonade.
Toujours, un petit peu de sucre, c'est toujours bien.
Bah, ouais.
Voilà, on a bien fait caraméliser. Et ensuite, on a cuit les frites. On a mis par-dessus du fromage. Alors nous,
du
on
fromage
va mettre un
petit fromage qui croque, des petits morceaux.
Qui s'appelle du quick quick.
Du quick quick, voilà, c'est ça. C'est des petits morceaux de fromage très blanc. On ne sait pas de quel lait ça vient, mais en tout cas, c'est ça croque sous la dent. Ça fait quick quick.
C'est épouvantable.
C'est ça.
Vous imaginez
mais
pas
à la cantine, nous avons tourné
pendant
le tournage. On a tourné au Québec et le jeudi, c'est Poutine. Donc tout le monde faisait. Voilà. Et moi, malheureusement, la seule Poutine, c'était pas dans le bon endroit, parce que je crois qu'il y a des très bons endroits de Poutine à Montréal.
C'était pas
des endroits
étiez,
qui ne ferment pas, où il n'y a même pas de clé, paraît-il. Mais moi, je ne suis pas tombé sur la bonne du tout.
On vous laisse terminer votre recette.
Pardon.
Bon, non, mais au contraire.
Non, mais j'ai terminé. C'est juste bien. Ça. Voilà, c'est
non, mais vous l'avez faite.
Bah, écoutez, ça ne me tentait pas avant.
J'en ai déjà fait, j'en ai déjà mangé. C'est pas que c'est bon ou que c'est pas bon, c'est que c'est particulier. Si on aime le côté un peu sucré, fromage et frites, ça marche quoi.
Bon, écoutez.
Bon, en tout cas, c'est calorique. On peut affronter quelques mois de froid avec une petite assiette de poutine.
La recette est à retrouver sur le site rtl.fr. On retrouve Valérie.
Merci
à vous, cher Cyril. J'aimais pas ça avant et j'aime pas ça non plus maintenant d'ailleurs. Allez. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Hortense Crépin.
Rencontre entre la France et le Royaume-Uni à Paris à propos des licences de pêche post-Brexit. Demain, un entretien doit cette fois se tenir à la Commission européenne, alors que l'application des mesures de rétorsion avec les Britanniques a été repoussée. Les résultats glaçants d'une enquête sur le climat publiée en pleine COP26, les émissions dues au charbon vont dépasser cette année celles de l'avant-Covid. Pour le gaz, elles vont même atteindre un taux historique. Il faudra remettre son masque dans son cartable dès lundi dans 39 départements. Il fait son retour dans les écoles primaires, là où le taux d'incidence dépasse à nouveau les 50 cas pour 100 000 habitants. Après l'annonce de son retour au Mali, l'ex-otage Sophie Pétronin se défend et déclare être dans le pays chez elle. Hier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, parlait d'une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité et de celle de nos militaires. Presque deux semaines après une mort accidentelle par balle sur le tournage d'un film d'Alec Baldwin, les avocats de l'armurière pensent que les faits pourraient être la conséquence d'un sabotage. En football, Paris rattrapé par Leipzig hier soir en Ligue des Champions, score final 2-2. Le PSG perd la tête de son groupe, mais reste bien dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui, place à la Ligue Europe, OM Lazio à 21h. Avant cela, Lyon reçoit le Sparta Prague et Monaco Eindhoven à 18h45. À 21h aussi en Ligue Conférence, Rennes face aux Slovènes de Moura, à suivre en fil rouge sur RTL. Et puis en tennis, les huitièmes de finale démarrent au Masters de Paris-Bercy à 14h. Gaël Monfils affronte Novak Djokovic et à 21h, Hugo Gaston fera face à Carlos Alcaraz.
Merci beaucoup, Hortense Crépin.